petit tour de cette problématique-là. C'est déjà assez large, en soi. Et dans une deuxième partie, on va expliquer comment une association, donc basée sur notre expérience, ce qu'on fait à Nantes, comment une association comme la nôtre peut un petit peu venir contribuer dans cette équation-là pour que la technologie soit plutôt une source d'émancipation plutôt que quelque chose qui permette, qui fasse qu'on perde certains de nos droits fondamentaux. Voilà, ce sera en deux grandes parties.
Donc, pour la première partie, donc c'est ce dont vient de parler Cops. Donc, on va décrire un petit peu de quel Internet voulons-nous. Donc, on va d'abord présenter un petit peu qui a besoin d'Internet et pourquoi. Ensuite, on détaillera un peu plus ces différentes atteintes qui ont lieu sur Internet par rapport à nos droits. Et enfin, pour être quand même un petit peu positif, quelles sont les solutions qui sont possibles. Donc, nous, on aime bien tout ce qui est local. Donc, on va commencer par très local. Quel Internet a Dame Blanc ? Donc, je vais faire ça assez vite. Je pense que vous connaissez la situation. Il n'y a pas de raccordement à la fibre qui est prévu, d'après un document de la région qui établit les plans d'aménagement du territoire. Et une pétition, je pense que vous êtes au courant, qui a été organisée pour un raccordement téléphonique. Et les technologies de type XDSL, donc ADSL et VDSL, qui fonctionnent, mais pas sur l'ensemble du territoire. Et donc Jérôme l'a très bien expliqué dans un article. Techniquement, il y a un point d'entrée pour Internet, et plus on en est loin, moins ça fonctionne. Concrètement, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh ben, parce qu'en fait, pour des gros opérateurs, quand il y a peu de gens, c'est peu rentable. Du coup, il n'y a pas beaucoup de motivation pour aller dans des endroits qui sont peu habités, où c'est plus compliqué, ça coûte cher, et ça ne va pas rapporter beaucoup d'argent. Et donc ça, c'est une carte qui illustre assez bien le problème. Donc, c'est le déploiement de la fibre par les privés. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que ben, dans les grandes villes, c'est bien, on a du réseau, on a la fibre. Par contre, sur le reste du territoire, qui est plus faiblement peuplé, bah, on n'a pas beaucoup de réseau. Donc, une solution, qui est pour nous une des solutions, c'est d'avoir des opérateurs locaux. Donc, des opérateurs locaux, ça va être des opérateurs qui vont connaître le terrain et les gens, qui vont connaître les problématiques locales et qui vont être davantage sensibles à ces problématiques-là. Et donc, à titre d'exemple, c'est des initiatives qui ont souvent moins de moyens, donc qui proposent des solutions alternatives. Et donc, par exemple, Orange versus PCLite. PCLite, c'est une association un petit peu comme Fait Maison, mais dans le département de l'Yonne. Et donc, pour Orange, une montée en débit au niveau du NRA, pour essayer d'améliorer le débit sans changer le NRA, c'est à peu près 100 000 euros. Cette association propose de faire des liens Wi-Fi pour relier les gens à Internet, c'est moins de 1 000 euros de budget de matériel. Et ça fonctionne. Par contre, un des soucis que l'on rencontre lorsqu'on est un petit opérateur local, ça va être les tarifs d'accès à l'infrastructure des gros opérateurs. Donc, c'est-à-dire que pour un petit opérateur, venir se brancher sur le central de Orange, ou venir se brancher sur le réseau fibre de Orange, de Free, ça va nous coûter très cher. Ça va coûter très cher à l'entrée, et après, en récurrent. Et ça, c'est parce que, avec les tarifs, on a besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Alors que quand on est sur des zones petites, on a moins de personnes. Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête? Parce que Internet, ça vaut vraiment le coup de s'embêter comme ça. Alors, il y a quand même le Conseil constitutionnel qui a reconnu que Internet, c'était une composante de la liberté d'expression. C'est quand même pas rien. Ça permet aussi l'accès à l'information, notamment avec la presse en ligne. Ça permet l'accès à l'éducation, avec les cours en ligne qui se développent énormément. On a aussi accès à tout un tas de ressources, dont des livres, avec la numérisation des livres. Et ça permet aussi l'accès à la culture, toujours encore, soit les livres, la musique, les films. Et donc, c'est que résoudre la fracture numérique, c'est un vrai enjeu de société, il y a de vrais droits et de vraies libertés qu'il y a derrière.
Donc, on a vu un aspect de la fracture numérique, là, qui est la fracture numérique des zones rurales. En fait, il y a quand même d'autres aspects, qui est que il y a une autre limite de séparation, c'est tout simplement les gens qui ont moins d'argent, en fait. On vient de le voir, Internet, ça permet des droits fondamentaux, c'est lié à des droits fondamentaux. Est-ce que si on est moins riche que les autres, ça veut dire qu'on a moins de droits. En théorie, c'est pas vraiment sur ces principes-là qu'on a construit la France, l'Europe. Enfin, c'est quand même des choses qui sont. C'est pas comme ça que ça fonctionne normalement. Les problèmes qui sont liés à ça, en fait, qui causent ce problème actuellement, c'est qu'on a beaucoup d'offres pour s'abonner à Internet. Ça va être 30 euros par mois minimum. Avec la fibre maintenant, en plus, ça devient difficile en ville de trouver des offres à moins de 30 euros. Donc on va avoir effectivement des bâtiments qui vont être fibrés, certes, mais où les opérateurs vont faire au moins 30 euros par mois de forfait. Et il y a des personnes pour qui, malheureusement, un tarif comme ça, c'est absolument inabordable, en fait. Donc ces personnes-là se retrouvent encore plus isolées. Et donc c'est assez catastrophique. Non seulement il faut que ce soit pas trop cher, mais en plus, il faut pas que ce soit un internet au rabais, si vous voulez. Donc avec des choses où c'est pas plus lent que le voisin juste parce qu'on paye moins cher, ou qu'on n'aurait accès qu'à certains sites, etc. Non, vraiment, quand on parle d'accès à internet, on parle de droit, on parle de tout le monde qui a les mêmes droits. Donc il y a pas de raison que parce que mon voisin est plus riche, il ait plus d'accès à internet que moi. Un exemple, je sais pas si certains d'entre vous connaissent les résidences Adoma. Adoma, c'est une entreprise qui gère des résidences de réinsertion sociale, donc où il y a beaucoup de personnes immigrées, des réfugiés, des gens qui sont en situation de réinsertion. Il y a un exemple à Nantes, assez récent, ils ont rénové une de ces résidences, et donc Orange, ils ont fait un contrat avec Orange pour Orange Fibre, en échange duquel Orange a obtenu le monopole sur cette résidence, avec un forfait à 35 euros par mois minimum pour les individus qui veulent s'abonner. Résultat, les gens ne s'abonnent pas et n'ont pas Internet. Donc voilà, globalement, les droits, c'est pas juste pour les riches. Comme je le disais, quand on est pauvre, qu'on est au chômage, qu'on a besoin de chercher un job, etc. En fait, c'est encore presque plus nécessaire pour les personnes qui sont en situation d'isolation, qui sont en situation défavorisée. Les tarifs pratiqués ne doivent pas dicter la qualité de l'accès. Donc en fait, un bon débit. Pas de limite de quantité de choses téléchargées, par exemple, chaque mois. En fait, ces choses-là qui ont l'air juste un petit peu des détails techniques, voire commerciaux, en fait, ils sont liés toujours à l'accès aux droits fondamentaux. Hein. C'est toujours le lien, il est toujours là. Et évidemment, le droit à la vie privée et non-discrimination, ça veut dire, on va revenir dessus très vite, ça veut dire qu'on accède à tout Internet et pas juste à des morceaux que l'opérateur a choisi de servir. Et donc, ouais, le point par rapport à tout ça, c'est qu'Internet, c'est une place publique, et que la société, a besoin de tout le monde, et que si même les pauvres peuvent participer un peu à la vie de la cité, en général, en grand, sur Internet, en fait, globalement, l'idée, c'est que ça bénéficiera au dialogue et à tout le monde, en général. Donc, le concept de discrimination sur les réseaux, c'est un concept important. Ah, ça, c'est une vieille image que je trouvais rigolote. Et que je vais essayer de développer un petit peu maintenant. Je vais la développer d'abord en montrant deux exemples. Des exemples d'entreprises qui font du business en apportant Internet, et je vais montrer comment leur façon d'apporter Internet, ou ce que elles font du marketing comme étant Internet, pourquoi c'est pas forcément une bonne idée. Donc, on a l'entreprise Facebook, que vous connaissez sans doute, donc qui est à la base un réseau social en ligne, un site web à la base. Ils ont décidé que dans certains pays, pour on va dire faire du social, ils déploieraient des accès internet gratuits. J'ai mis des guillemets parce que c'est la façon dont eux l'ont vendu, c'est pour ça que c'est entre guillemets. Pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se payer un accès. Donc effectivement, sur le papier, ça a l'air intéressant. Ils ont fait ça surtout dans des pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Mais on va voir pourquoi, en fait, si on soulève un petit peu les choses, si on creuse un petit peu, pourquoi c'est ce qu'ils ont fait et pas forcément si bien que ça. Donc leur offre s'appelle internet.org. En fait, quand on creuse un petit peu, donc si par exemple on habite dans certains pays d'Afrique, l'Afrique du Sud par exemple est concernée par ceci, quand on utilise l'accès internet.org, donc l'accès à internet gratuit de Facebook, en fait on a accès qu'à quelques dizaines de sites web, qui sont des sites web qui ont lié un partenariat avec Facebook, et donc en fait qui payent Facebook pour que les gens puissent y accéder depuis leur pays d'origine. Donc c'est déjà un bon moyen finalement pour eux de se faire un petit peu plus d'argent. Ils bloquent les connexions sécurisées au site web, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept HTTPS, qui est en gros se connecter à un site web de façon sécurisée pour éviter de que nos données soient espionnées par notre fournisseur d'accès. Et tout le trafic, en fait, pour cette offre, passe par les machines de Facebook, tout est via eux. Et donc, en fait, quand on regarde un petit peu ça, on se dit, en fait, comment ils gagnent de l'argent, Facebook? Bon, le modèle d'affaires de Facebook, il est pas compliqué, c'est collecter des données personnelles sur les gens et les revendre à des annonceurs publicitaires. Ça, c'est leur modèle d'affaires, ils fonctionnent comme ça. Donc en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que on a des gens qui n'ont pas d'argent, qui ont accès à quelques sites auxquels ils peuvent pas se connecter en mode sécurisé, et avec Facebook qui capte massivement leurs données personnelles, et les données de leur trafic internet. Donc en fait, ils ont pas de droits, pas les droits habituels qu'ils devraient avoir avec une connexion internet saine, disons. Et c'est encore plus cynique que ça, c'est qu'en fait, Facebook fait il fait de ces personnes-là une marchandise, il fait du business sur le fait que les gens ont pas d'argent pour eux-mêmes faire de l'argent avec leurs données. Donc c'est quand même assez intéressant comme raisonnement. Et intéressant aussi, leur service a été interdit en Inde par le régulateur des communications indien, justement à cause notamment de tous les blocages qu'ils ont. Donc il y a quand même eu quelques réactions d'autorité publique. Un autre exemple, l'approche ville de Nantes, donc pas loin d'ici, que nous on est familier, du coup on vous présente ça rapidement. Récemment, ils ont déployé des bornes d'accès sans fil gratuit dans la ville, dans les parcs, le long des trams, le long de certaines lignes de transport en commun, comme ça, si quelqu'un est dans un bus ou dans un tram, il peut rester connecté en quelque sorte en permanence. Et puis pareil, les gens qui n'ont pas trop d'argent, au pire, ils peuvent aller se poser dans un parc s'ils n'ont pas internet chez eux, etc. Donc pareil, sur le papier, c'est intéressant, ça a l'air intéressant, sauf qu'une fois de plus, dès qu'on soulève un petit peu, une des raisons principales pour lesquelles ils ont fait, c'est pour étudier le flot des personnes dans la ville, ce qui veut dire que concrètement, ils utilisent le fait que, par exemple, les téléphones des gens se connectent aux bornes d'accès les unes après les autres. Donc quand on est dans un bus, par exemple, on se connecte d'abord à une borne, et puis elle est hors de portée, du coup, on sélectionne la suivante, etc. Et chaque borne enregistre le fait qu'un appareil se connecte. Donc comme ça, en fait, on peut tracer, ils tracent, en fait, et ils enregistrent le parcours des personnes via les différentes connexions de leurs appareils. Et il y a également des blocages, je ne reviens pas dessus, mais il y a des sites qui sont bloqués, des différents types de données qui sont bloqués, on peut pas forcément envoyer des mails facilement, etc. Donc de la même façon, on a ici une violation de la vie privée, par exemple, sauf qu'en plus, elle est dans le monde physique, c'est-à-dire que là, sur Facebook, par exemple, on était sur les données de navigation en ligne. Et là, on est carrément dans l'espionnage de où est-ce qu'on va. Les trajets domicile-travail, quel bar on fréquente, tout ça. C'est vraiment dans le monde physique. Il y a les blocages, donc c'est ce qu'on appelle discrimination du trafic. Et il y a un certain élitisme aussi, puisque finalement, c'est pareil que pour Facebook, c'est gratuit, en fait, t'as moins de droits. Donc le point commun là-dessus, un des points communs, il y en a plusieurs, mais l'un des points communs, c'est donc ce concept de discrimination, donc de bloquer certains sites, en tant qu'opérateur, de dire non, bah les utilisateurs, ils n'auront pas le droit de faire ça. C'est comme ça, moi j'ai décidé. Donc un exemple de discrimination, c'est le site de Pirate Bay, qui est un site de téléchargement en ligne. Donc en gros, un site qui permet de trouver des fichiers à s'échanger avec d'autres personnes. Ce site est bloqué en France. Enfin, la justice a ordonné à certains fournisseurs d'accès de le bloquer, donc sauf si on utilise des moyens spéciaux ou d'autres fournisseurs d'accès nous ont pas ordonné de le bloquer. On peut pas y accéder. Donc chez Orange, par exemple, vous tapez ça dans votre barre d'adresse, ça marchera pas. Pourtant, le site existe. Il existe. Il est en ligne. Il est connecté à Internet. Mais Orange va vous faire croire que c'est pas possible. Donc, la discrimination de trafic, en fait, le vrai mot pour ça, c'est de la censure. Qui est parfois arbitraire. Pourquoi ? Parfois, parce que le concept de censure... c'est complexe. Une société peut juger qu'une un certain type de censure est acceptable. Donc ça, c'est pas forcément là maintenant à nous de juger. Le cas de Pirate Bay, par exemple, ça a été ordonné par la justice. Donc moi personnellement, je trouve quand même que c'est scandaleux. Mais c'est pas de l'arbitraire au sens où c'est pas l'opérateur réseau qui a décidé de bloquer. C'est la justice qui a envoyé une injonction à des opérateurs. Par contre, ça peut être arbitraire. Des fois, ils décident qu'on n'a pas le droit de voir certains sites, qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire avec la connexion, etc., etc., ou que des sites seront plus rapides que d'autres, etc. Donc c'est un privilège, en fait, qu'ils ont, les opérateurs réseau. C'est un privilège dont ils abusent trop souvent, au même type qu'un facteur qui jetterait une carte à la poubelle parce qu'il a pas, il aime pas, peut-être il connaît, peut-être même dans un petit village, ça fait encore plus de sens, il connaît quelqu'un, il l'aime pas, cette personne a reçu une carte postale, poubelle. Voilà. Je sais pas si ça peut arriver, hein, on sait rien, j'imagine que ça peut arriver de temps en temps. C'est exactement la même chose avec le FAI, donc le fournisseur d'accès à Internet. Il décide qu'un site sera pas accessible. Non. Ça, voilà. Et c'est un privilège que seul lui. Donc les différentes méthodes, je vais pas rentrer dans trop en détail, soit on va avoir vraiment une page d'interdiction, par exemple du ministère de l'Intérieur, soit on va avoir un blocage plus discret, donc un peu ce qu'on a vu avec Orange et de Pirate Bay, on va faire en sorte que l'utilisateur pense que le site ne fonctionne pas, alors qu'en fait il fonctionne très bien, c'est juste que le bloque. On va avoir, ça il n'y a pas trop en France je pense, mais dans certains pays, l'Iran le font par exemple, de ralentir beaucoup certaines connexions à certains sites, à tel point que les gens vont finir par se décourager. Et puis enfin, un autre moyen qui n'est pas technique, mais qui est extrêmement intéressant et qui est de plus en plus à la mode, c'est une tarification différenciée. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, si vous connectez à tel site, ce sera moins cher, voire vous paierez pas le trafic que vous générez, les téléchargements, beaucoup sur les forfaits mobiles, où on est encore avec des choses où on a le droit à 100 gigas par mois, ou quelque chose comme ça. Mais, sauf si tu te connectes à tel site, là, tu paieras pas, ça va pas être décompté de ton forfait. Donc en fait, on oriente comme ça l'utilisateur vers certains sites plutôt que d'autres. Donc c'est des pratiques qui sont de plus en plus répandues. En résumé, ce phénomène, je l'ai répété à cette fois, c'est une violation arbitraire des droits fondamentaux, pas tout le temps arbitraire, certes. Très important, c'est une balkanisation en fait du monde. Internet, a priori, c'est les machines qui sont branchées en réseau, elles sont toutes branchées sur le même réseau. Comme je disais, de Pirate Bay, il existe, il est là, il est accessible. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a décidé de vous bloquer à vous parce que vous êtes abonné à Orange. Et donc en fait, alors qu'on a une ressource universelle avec des choses qui sont interconnectées, où tout le monde pourrait avoir accès à la même information, exactement la même. Ce qui quand même serait intéressant d'avoir toute une planète qui potentiellement a accès exactement à la même chose pour baser des débats de société. C'est bien quand on a tous la même information. C'est plus facile. Et ben, on perd cette universalité. Donc, on a vraiment une balkanisation. En fait, on recrée des frontières dans un système qui, à la base, était fait pour ne pas en contenir. Des conséquences, contrôle des luttes sociales, si certains sites sont bloqués, que les gens peuvent pas utiliser pour communiquer, si Facebook décide de fermer certains groupes militants qui luttent pour certains droits, ça peut être le droit des femmes, ça peut être le droit des travailleurs, ça peut être plein de choses, et ben ça devient beaucoup plus dur de s'organiser en ligne, en fait. Il y a un contrôle de l'information, si certains médias sont bloqués. Il y a un frein à l'innovation, donc là on est plus dans le domaine économique, mais c'est très intéressant à noter aussi. Si je suis une petite entreprise qui innove et qui a fait un nouveau site web avec un nouveau service du tonnerre qui va marcher sur Internet, et que malheureusement, les opérateurs comme Orange ou Free ou SFR ont décidé que dans leur forfait Internet pour vous, pour les utilisateurs, eh ben, y aura un partenariat qui fait que ce sera moins cher s'ils utilisent déjà la grosse entreprise qui est déjà en place sur le marché, alors que moi, pourtant, ce que j'ai fait, ça se trouve, c'est carrément mieux, mais je suis une petite start-up qui a pas forcément beaucoup de moyens, donc j'ai pas forcément de quoi payer un partenariat avec Orange ou SFR, etc., pour qu'ils laissent aussi les gens accéder à mon site. Et ben finalement, ça se trouve, je vais péricliter, parce que les gens pourront pas profiter de mon nouveau produit, donc c'est très important. C'est quelque chose qui est à la fois élitiste et hypocrite. Comme on l'a vu, ça frappe surtout les gens qui ont moins d'argent. Ça frappe surtout les gens qui s'y connaissent moins techniquement. C'est-à-dire que là, nous ici, nous trois, les sites bloqués, entre guillemets, on les connaît pas. Moi, The Pirate Bay, j'y accède comme je veux parce que je sais comment contourner les blocages. Mais c'est pas une solution. C'est pas une solution parce que ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse y avoir accès. C'est hypocrite pour cette raison aussi. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un blocage, parce qu'en fait, si on veut, les gens qui veulent vraiment accéder, ils pourront le faire. Et c'est ça, c'est qu'en fait, on embête les gens qui... ça se trouve, de toute façon, ne voulaient pas vraiment, et puis, voilà, on n'a pas les moyens de chercher comment accéder à l'information. Notamment tout ce qui est blocage de sites djihadistes et compagnie, c'est extrêmement hypocrite, parce que je pense que quelqu'un qui est très motivé dans cette idéologie-là, et qui veut vraiment accéder à ces sites-là, il le fera. C'est pas dur, c'est vraiment pas dur. Voilà, et pour les motivations, on a vu, c'est l'économie, donc les partenariats commerciaux avec des sites, l'idéologie, donc l'islamisme, etc., par exemple, lié à la thématique de la sécurité sur cette chose-là. Pour le côté économique, il y a la question du droit d'auteur, on va pas du tout rentrer dedans là, mais par exemple, le blocage de Pirate Bay, ça tourne autour du droit d'auteur. C'est une question économique. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans une raison de pourquoi ils font ça. On va pas voir toutes les raisons, mais une qui est intéressante, qui est un phénomène actuel. Qu'est-ce qu'on appelle la concentration des médias? Je sais pas si ça vous parle, moi en fait j'ai un petit peu appris ce terme en préparant la conférence et je trouve ça extrêmement intéressant, c'est pour ça qu'on a voulu le mettre dedans. Donc parmi les choses qui se passent en ce moment, qui font qu'il y a ces blocages-là, en fait, on a un phénomène comme ça, c'est-à-dire qu'un opérateur réseau, en fait, il fait partie d'un groupe d'entreprise qui a des intérêts aussi dans la presse et aussi dans l'industrie culturelle. Donc, par exemple, on a SFR Télécom, qui est donc une branche du groupe SFR, et SFR Média, qui est aussi une branche du groupe SFR, évidemment. Du coup, quand on s'abonne à SFR Télécom, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un abonnement gratuit chez Libé, on a un abonnement gratuit à BFM, un abonnement gratuit à l'Express. Pourquoi? Parce que ces trois sites, ces trois médias, il y en a d'autres, appartiennent au moins en grande partie au groupe SFR. Et donc comme ça, ils envoient des gens, ils incitent les gens à visiter ces médias-là, et comment ces médias font de l'argent sur leur site? Avec des bannières de pub, donc ils génèrent du clic, donc ils font de l'argent, donc ça leur rapporte de l'argent. Donc ça, c'est la motivation en gros. Un autre exemple, c'est donc Orange, qui a lié un partenariat avec Deezer. Deezer, c'est un des sites où on peut écouter de la musique en ligne. Et donc là, c'est plus le partenariat qui va rapporter à Orange un peu d'argent. En échange de quoi, quand tu t'abonnes à Orange, eh ben tu vas avoir un compte pour gratuit ou presque rien chez Deezer. Donc voilà, ça limite en fait les choses. Ce qui se passe, c'est que plutôt que d'avoir un accès à Internet, maintenant on a une tendance. Alors ça, c'est un peu exagéré quand même, hein, mais c'est l'idée. C'est plutôt que d'avoir un accès à Internet, on a tend à s'abonner à des médias contrôlés, alors sans tomber dans la paranoïa, etc., mais ils sont contrôlés par le biais des possessions, enfin, qui possèdent quels médias, etc., etc. En tout cas, il y a moins de diversité. Donc la tendance générale de ça, c'est qu'on a des grands groupes qui contrôlent certains médias et l'industrie culturelle, et qui contrôlent aussi le vecteur de transport jusqu'à vous, donc l'Internet. La conséquence, c'est que de plus en plus, on rend en fait les gens captifs où ils sont dans une bulle comme ça, leur internet leur permet d'accéder gratuitement ou plus vite ou pour moins cher à tel truc, et donc du coup ils vont surtout ou uniquement consulter ces choses-là. Et donc au niveau ouverture et diversité, c'est vraiment problématique. Une comparaison, c'est un mot qui est fort, mais juste j'ai lu en fait sérieusement sur Wikipédia là-dessus, et il faisait le lien. Et donc l'État totalitaire, en fait, qu'est-ce que c'est en termes médiatiques? C'est un État qui contrôle les agences de presse, qui va souvent aussi contrôler tout ce qui est culturel, et maintenant avec Internet, qui va aussi contrôler les fournisseurs d'accès à Internet. J'ai pas besoin d'en dire plus, c'est les trois choses que je viens de mentionner là. La différence aujourd'hui, c'est que c'est privé, donc c'est plus des États, mais on tend à avoir des bulles comme ça qui se forment et qui suivent ce schéma-là, en fait. Face à ça, tout n'est pas noir. On peut réfléchir à trouver une autre façon de gérer Internet et d'en faire donc un bien commun. Nous, c'est ce qu'on défend, on verra un petit peu après plus en détail. C'est une vieille notion, je ne sais pas si vous connaissez les prud'homies de pêche. Les prud'homies de pêche sont donc c'est reconnu légalement depuis 1859. C'est dans le sud de la France, donc sur la Méditerranée. En fait, ce sont des regroupements de pêcheurs qui gèrent une certaine zone de pêche, qui gèrent les quotas eux-mêmes, et en fait, en tant que collectif, ils s'assurent de pas trop pêcher pour que le collectif puisse continuer en fait à vivre de la pêche. Donc ils évitent de s'auto-détruire en fait, en fixant des quotas raisonnables et en décidant ensemble ce qu'ils font. Donc ils ont une ressource, et puis ils ont une gestion collective de la ressource. Il y a l'exemple des pâturages en Angleterre, c'est sûrement pas que en Angleterre, mais il y a un certain temps, en tout cas là-bas, les pâturages étaient ouverts, et donc ils partageaient un pâturage, ils allaient faire paître leurs animaux au même endroit, et puis du coup il y avait une ressource commune qui était gérée en commun, etc. Et évidemment, ils se débrouillaient pour qu'il n'y ait pas 200 animaux d'un coup qui débarquent et qui transforment ça en champ de boue. Donc c'était un peu l'idée, c'est qu'on gère bien la ressource ensemble et continuer à profiter à tous les individus, en fait. Et puis ensuite, le mouvement des enclosures qui a fait que on privatise, on met des trucs entre les pâturages, et puis bon, ça c'est fini. Dans le domaine du numérique, il y a le logiciel libre. Le logiciel libre, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel dont le code est disponible, où on peut librement contribuer et librement étudier le code. Donc en fait, du coup, le code est un bien commun, parce que les gens peuvent tous le regarder, et peuvent tous éventuellement l'améliorer. Les licences Creative Commons, ce sont donc des licences de publication de contenu, de vidéos, de textes, etc. Quand on met sous licence Creative Commons en ligne un contenu, en fait, on autorise les autres à le réutiliser, etc. Donc on verse, en fait, dans du commun. Et puis, il y a les données ouvertes. Vous connaissez Wikipédia, c'est des données ouvertes. OpenStreetMap, qui est comme Google Maps, mais c'est des données ouvertes, c'est en libre. C'est ouvert à la contribution. Nous, ce qui nous intéresse dans ce modèle, c'est de gérer l'infrastructure Internet, essayer d'appliquer ça un peu pour gérer l'infrastructure Internet un peu comme un bien commun. Donc d'avoir plutôt qu'une phagocytation privée de l'infrastructure, d'avoir une gestion collective qui soit transparente, donc où les gens peuvent avoir confiance de ce qui se passe dans les câbles, qu'on puisse avoir un contrôle collectif que ce qu'on est en train de faire, ça respecte bien nos droits. Et puis, comme c'est une ressource physique, c'est quelque chose qui finalement demande un tissu local, en fait, une proximité entre les gens, quoi, une connaissance des uns et des autres. Et donc, l'idée qui est proposée, c'est plutôt d'avoir des gros conglomérats qui accaparent, on essaie de faire des communautés décentralisées qui contrôlent ensemble. Voilà, petite pause de 5-10 minutes. 5 minutes, si vous voulez. Si vous avez des questions, peut-être. Après, on va passer à d'autres choses et je veux pas trop...
Si. En ce qui concerne les zones non couvertes telles que vous l'avez décrit au départ, il me semble que pendant la dernière campagne présidentielle, il avait été évoqué cette situation et avec une orientation de développement qui devait amener progressivement et si possible le plus rapidement possible les zones comme les nôtres à être mieux couvertes. Est-ce que, parce que je crois que vous parliez d'une situation de 2011 par exemple, et là est-ce qu'il y a à votre connaissance des projets, même des développements, et qu'est-ce que l'on peut en escompter?
Ben, le développement est quand même en général que ça se développe. Effectivement, peu à peu, il y a quand même plus de gens qui ont la fibre. Les autorités publiques font des efforts quand même. De temps en temps, elles arrivent aussi à négocier avec les opérateurs pour qu'ils viennent fibrer, par exemple, à un endroit. Mais ça reste fait de façon très inégale. Il y a par exemple, ça avance si vous voulez. On va pas dire que c'est complètement en noir. Et effectivement, il y a le plan qui s'appelle France THD, France Très Haut Débit, qui est un plan national pour essayer de faire avancer ça. Donc honnêtement, je connais pas tous les détails, mais oui, il y a des négociations qui sont entre l'État et certains opérateurs d'un côté, ou entre l'État, entre les régions et les opérateurs, voire même entre les communes. Les opérateurs pour essayer de faire avancer les choses. Ouais. Ouais, juste un point négatif, et après je vais te laisser compléter, c'est que à Nantes, qui est en zone urbaine, par exemple, il y a un quartier pauvre, donc. Et en fait, Nantes est pas mal fibrée, enfin ça avance pas mal. Et en fait, c'est marrant, la fibre, elle contourne le quartier pauvre, littéralement. Elle passe de chaque côté.
Parce que ça les intéresse pas.
Et du coup, effectivement, là, pour le SDTAN, ça, c'est document au niveau de la région. J'ai pas trouvé de mise à jour depuis 2011 de ce document. Peut-être qu'il a été rangé ailleurs, mais dans le document de 2011, qui prévoit sur 10, 15, 20, 25 ans, il n'y avait pas de fibre de prévu pour ici.
Parce que les administrations font en sorte que de plus en plus, Le seul accès que nous ayons à leur service se fasse pratiquement par la voie Internet. Oui. Les formules papier, les guichets, tout ça existant de moins en moins ou sont presque dissuasifs.
C'est pour ça que c'est important d'avoir un Internet partout, mais effectivement pour les gros opérateurs, la région, elle n'a pas prévu pour ici
de rentrer. Il y a SFR qui a fait une annonce un peu... récemment, qui a prétendu, parce que comme le plan fibre, ça, c'est bon, enfin, ça peut toujours être un peu reculé, souvent des grands plans comme ça. Et il y a SFR qui a fait une annonce récemment, qui avait un peu bousculé. Voilà, ils promettent la fibre partout en 2025. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du bluff, enfin, qui disent que c'est pas sérieux, tout ça, mais enfin, il y a des...
Généralement, ils vont surtout aller dans les parcs d'activité, enfin, les zones un peu industrielles, là où il y a de l'activité économique, ou là où il y a beaucoup de monde.
Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas, quoi. Parce que souvent, sur les questions que posent souvent les gens, c'est ça nous arrive ici à Dunlop comme ailleurs, c'est quand est-ce qu'on ça va aller mieux. Et c'est, bah, on n'a pas accès à avoir des infos précises sur notre territoire, quoi. Comme tout le monde, on peut que attendre que ça aille mieux, quoi.
Ou alors...
C'est le département aussi.
C'est ça, c'est vous êtes des citoyens de votre département, vous avez les élus, on les a élus, après,
on va leur taper dessus. C'est le SDTAN, donc en fait, c'est vraiment avec eux qu'il faut aller dialoguer pour savoir s'il y aura une autre version du SDTAN, puisqu'il va changer de nom.
Et bon, SDTAN, c'est pour schéma directeur de...
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique.
Bien sûr.
Quand vous dites fibré, ça va être la fibre, est-ce qu'elle rentre dans les maisons?
Eh bien, ça dépend, mais normalement, quand nous on dit fibré, pour nous c'est aller jusqu'à la personne. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la prise téléphonique, c'est une prise fibre. Ça, pour nous, c'est fibré. Si c'est fibré jusqu'au rond-point...
Fibre optique, quoi.
Oui,
mais ça veut dire qu'il faut tout recâbler.
Oui, ça veut dire qu'il faut faire passer les câbles dans les gaines, mais comme... C'est des travaux, ça se prévoit forcément, mais quand, par exemple, on refait la route, eh ben, si on prévoit, on pose les gaines pour pouvoir faire passer les câbles. Quand il y a des travaux d'aménagement, ça se prévoit, je suis d'accord, c'est pas non plus simple, mais ça peut être fait. Dans les grosses villes, ça se fait bien, donc ici, vous refaites aussi vos routes de temps en temps, on recâble en même temps.
Pour ajouter là-dessus, c'est plus facile de enfin, il y a plus d'espace en zone rurale pour creuser et mettre des tuyaux de fibre. En ville, c'est très compliqué, et pourtant, il y a plus de fibre.
Oui, donc, à Dame Blanche, il y a beaucoup de lotistes en privé, des nobles. Yann, c'était pas quoi, la limite. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'on va fibrer dans une maison toutes les pièces, ça s'arrête ou ça s'arrête à l'arrivée de la ligne, après on fait tout en Wi-Fi, donc on arrête fibre Wi-Fi, pareil que ça pose des problèmes. Ou alors on fait les réseaux sur courant porteur, après.
Alors, ça va être à la discrétion des personnes, c'est comme quand on construit sa maison par exemple. Là, c'est là, à ce moment-là, on peut décider si on fait passer, où est-ce qu'on fait passer
notre eau, où est-ce qu'on fait sortir nos tuyaux, et ben, on peut en même temps réfléchir à où est-ce qu'on fait arriver Internet. Mais effectivement, le schéma le plus classique reste, on a un point d'arrivée pour Internet, et puis après, soit avec du Wi-Fi, soit avec d'autres solutions.
Juste pour indiquer qu'actuellement, ils sont en train de raccorder la fibre sur Bougillac. Mais c'est vrai qu'ils choisissent les zones les plus denses, ou les zones d'activité, qui sont en fait en priorité. Ça, c'est incroyable, dans 1500 prises. Et il faut savoir aussi qu'il y a le raccordement de la prise est à la charge de la collectivité. Donc, un raccordement de prise, ça coûte dans les 400 euros. À charge de la collectivité. Là-dessus, la collectivité peut aller chercher des subventions et des fois, c'est subventionné à la hauteur de 50%. Mais il y a un reste à charge de la collectivité. Donc, un cas comme Dame Blanche est un cas particulier parce que sur une rue de 10 maisons, l'opérateur, il va y avoir deux qui sont habités à la nuit. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous.
Oui, et c'est un peu ce qu'on disait au début aussi, enfin, ça peut être cher si on se base que sur les gros opérateurs qui ne veulent pas forcément investir, et c'est un peu ce qu'on a expliqué pour toute la première partie, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie en fait, qui peuvent avoir la volonté de le faire, les capacités, un peu de temps, s'il y a ces gens-là, là, des associations comme nous, mais il n'y a vraiment pas que nous, quoi. Si par exemple on régulait pour... avoir des tarifs d'accès au trafic de gros, c'est ce qu'on appelle le trafic de gros, donc pour pouvoir accéder à des tarifs raisonnables au point de concentration du trafic pour des initiatives locales. Ces initiatives locales pourraient prendre en charge, peut-être pas forcément avec de la fibre, mais avec des technologies sans fil par exemple, qui peuvent être aussi à portée du très haut débit. On pourrait aussi changer les choses pour éventuellement pour des budgets beaucoup moindres, quoi. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités se battent pas mal pour essayer de faire avancer les choses, mais globalement, les opérateurs décident encore un peu de faire ce qu'ils veulent, en général.
Mais, un technicien qui travaille pour Orange me disait que, en fait, la mauvaise réception qu'on a par moment sur Internet, sur Penerf et Saint-Guérin et tout ça, et d'autres... Notre zone me disait que cela venait du fait que les cartes au relais du LIC sont vieilles et qu'il faudrait les changer.
Cartes. Alors,
les cartes.
Genre les
communications. Dans le NRA,
dans le central téléphonique du coup.
Dans le centre, ouais. dans les relais. Okay. En fait, moi j'y connais rien, je sais pas si ça vient de là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la. Sur Dame-Blanche. Qu'est-ce que l'opérateur, on a fait une pétition, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est constamment emmerdé.
Eh bien, on va... Non, mais on va en parler, en fait, peut-être pas en détail, mais il y a en partie ce que je viens de dire. Donc, d'une part, le technicien vous dit ça, la question qui découle de ça, c'est mais pourquoi les cartes, ils ne les changent pas? Voilà, parce que l'argent, enfin, ils en ont quand même pas mal. La deuxième chose, c'est comme on va le voir un peu plus en détail après, localement, il est possible de faire des choses aussi avec d'autres types de technologies qui sont pas forcément aussi onéreuses et compliquées à mettre en œuvre. Et enfin, ça malheureusement, c'est pas gagné. S'il y avait une régulation correcte des tarifs d'accès au marché de gros, sur la fibre, on pourrait avoir des entreprises locales, des associations, des collectifs, peu importe, qui seraient capables même de faire une petite desserte locale, mais qui le feraient parce qu'elles ont envie de le faire, parce que ce seraient les gens concernés qui le feraient même, en fait. Donc, malheureusement, cette réglementation n'existe pas. Mais si on prend, par exemple, l'exemple de la DSL, donc il y a ce problème-là, effectivement. Par contre, la DSL a un avantage en termes économiques, c'est que il y a une régulation qui existe, qui fait que si, en fait, on a un équipement, si on est un gros opérateur et qu'on a un équipement dans un central téléphonique, certains de ces gros opérateurs sont obligés, légalement, d'autoriser d'autres opérateurs à utiliser ces équipements pour fournir de l'Internet. Donc, du coup, ça crée de la concurrence, ça crée du dynamisme, ça crée aussi une certaine lutte sur les prix, ça crée potentiellement une amélioration du service, etc. Lorsque le cuivre est trop long ou que le central téléphonique est de mauvaise qualité, malheureusement, ben, ça suffit pas. Mais il y a des, ça fait partie des pistes, possibles.
C'est ce qu'on appelle l'éligibilité à un réseau. On peut avoir un communication. Je n'ai pas éligible pour avoir une plateforme.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Attendez, vous n'êtes pas éligible, vous ne pourrez pas avoir.
Voilà, c'est ce que vous êtes.
Est-ce que l'opérateur fournit à cet endroit-là?
Voilà, oui.
On va continuer tranquillement. Je vois que c'est un sujet qui effectivement est extrêmement présent là, je suis content qu'on ait commencé.
Au sujet il parlait du support cuivre. Le support cuivre, ce sont les petits fils qui ont été installés au début, dans les années 50, par France Télécom à l'époque, hein, et qui étaient, bon, c'est tout petit fil, 4 dixièmes, un truc comme ça. Et il faut savoir qu'en matière d'électrique, d'électronique, plus le fil est petit, plus il est résistant. Plus il est long, plus il est résistant. Ce qui fait que, quand on part, je prends mon cas, quand on part de la place des Lavandières, ben les signaux de départ, bon, c'est du 0 dB, mais bon, c'est un peu technique. Et ça arrive ici, derrière, parce que j'habite là, il y a 41 décibels d'atténuation. Bon, les gens ne sont pas forcément habitués à faire un dB. Il faut savoir que 3 décibels, le niveau de puissance est divisé par 2. Et vous voyez, je vous dis pas ce qui se passe à 40 dB. Donc, j'ai eu, parce que j'ai râlé, j'ai eu le responsable de la télévision ADSL de Rennes qui m'a appelé. Et puis, je lui ai dit, de toute façon, ça ne marchera jamais. Je suis passé en satellite. Il m'a dit, installer une antenne satellite, ça ne se fait pas comme ça. Quand même assez basique, hein. J'ai fait de la radio pendant 40 ans, donc ça ne me gêne pas beaucoup. Et bizarrement, quelques jours après avoir râlé, mon débit, qui était de l'ordre de 240 mégas, c'était quelque chose d'insignifiant, il a doublé. Parce que ils ont des possibilités d'augmenter les niveaux au départ. Au départ, je ne montre pas, parce que c'est là-bas que ça se tient. Et si personne ne râle, ben, ils font rien, et puis comme ça bénéficie à personne. Et puis, on continue à ramer, et puis à DSL, parce que les fils qui supportaient la basse fréquence de la bande des 300 à 3000 Hz, hein, qui était la bande téléphonique, maintenant c'est la bande ADSL, et ça se passe, les fréquences sont des kilohertz, et plus on monte en fréquence, on retourne dans le même problème, plus ça affaiblit. Donc, le diamètre, la distance, la fréquence, on n'est pas sorti de l'auberge.
Il va t'expliquer comment.
Un peu plus tard. On va continuer avec les problèmes d'abord. Oui. Ok, donc effectivement, l'accès, c'est quelque chose de très problématique.
C'était un peu mon boulot.
On va continuer avec certains autres problèmes qui sont liés au numérique et à Internet, qui nous touchent tous aussi. En particulier, vous l'aurez peut-être compris en lisant ce petit dessin. L'autre problème, hormis la censure, donc ce que j'ai aussi appelé la discrimination de trafic, c'est donc le droit à la vie privée. Pour un cadre légal, le droit à la vie privée, c'est un droit fondamental. Il est défini notamment par la Charte européenne des droits de l'homme en tant que droit fondamental. Il faut se rappeler que sans lui, eh ben, si notre vie privée est violée dans nos communications personnelles, du coup, nos communications ne sont plus libres, puisque s'il y a quelqu'un qui écoute en permanence ce que je dis à Grégoire, par exemple, là, je vais forcément pas lui dire les mêmes choses. Du coup, je pourrais moins échanger des idées avec lui, des opinions, débattre, échanger peut-être des opinions qui ne font pas consensus dans la société autour de moi et qui donc seraient jugées potentiellement inacceptables. De ce fait, ma pensée évoluera moins, donc la liberté de penser en prend un coup également. Par voie de conséquence, la liberté d'opinion et d'expression également. Sans vie privée, les nouvelles émancipations sont aussi beaucoup plus difficiles. L'homosexualité a été interdite en France, aux États-Unis, elle est encore interdite dans beaucoup de pays dans le monde. Comment elle a été obtenue? Une des possibilités pour l'obtenir, c'était d'une part de s'organiser, mais aussi tout simplement, en tant qu'homosexuel, de pouvoir être dans un lieu privé sans avoir de surveillance, ça aide finalement pour pratiquer sa sexualité, par exemple. Donc finalement, savoir que c'est possible, qu'on peut, que ça fait du mal à personne. Si on imagine que même notre lieu d'habitation est envahi avec des choses qui permettent, à l'époque où c'était interdit aux autorités de venir savoir tout de suite ce qui se passe, il y aurait peut-être jamais eu l'émancipation, par exemple, des homosexuels. Mais il en va de même pour les luttes sociales, les droits des travailleurs, les droits des femmes, etc. Il y a un très bon film, il y a quelques ans, qui est sorti, qui s'appelait Suffragette, je crois, sur le droit de vote des femmes en Grande-Bretagne. Il y a eu une répression forte, très forte de la part des autorités, surtout les mouvements féminins qui s'organisaient. Il y avait des protestations dans des usines, des grèves, elles arrêtaient le travail, il y avait des manifestations à Westminster. Toute cette organisation-là, si elle n'avait pas eu de sphère privée, de sphère personnelle pour lutter, ça se trouve, ça aurait été tué dans l'œuf, en fait. Et c'est vraiment important de réfléchir à ça. Si ça se trouve, ça aurait été plus difficile d'organiser ces protestations-là, je dis si ça se trouve, j'en sais rien, mais si ça se trouve, ça aurait été plus difficile avec des smartphones, parce que les smartphones sont espionnés, enfin, j'en sais rien, peut-être. Bon, sans vie privée, pas le droit à l'anonymat non plus, du coup, mine de rien, pouvoir se déplacer de façon anonyme dans l'espace public, normalement, c'est un droit. Publier les choses sous pseudonyme, il y a quand même des auteurs célèbres qui l'ont fait, George Sand, par exemple. C'est pas possible, donc pareil, ça pose énormément de problèmes. Et donc, en gros, tout ça, c'est vraiment de l'expérimentation des idées, de faire évoluer la société, etc. La vie privée, en fait, en fin de compte, elle est à la base des autres droits. Et c'est la base de qui on est, en fait. Avoir un espace privé, un espace à soi, c'est la base de la définition de soi-même. Si on est sans cesse observé, c'est beaucoup plus dur de se définir, en fait. Donc c'est vraiment crucial. Le numérique, malheureusement, est globalement un cauchemar pour la vie privée. On n'est pas du tout à fait maison, on n'est pas du tout technobéa. On ne considère pas que la technologie est une bonne chose par défaut. Nabi une fois disait que la technologie, elle est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Et c'est un petit peu ça l'idée. Il faut savoir que lorsqu'on utilise des outils numériques, il y a tout systématiquement, tout le temps, qui laisse une trace. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut se rappeler. Évidemment, dans la vie physique, on laisse aussi des traces, mais c'est quand même beaucoup plus pénible pour quelqu'un qui voudra vous retrouver de regarder si vous avez marché ici ou s'il y a votre ADN qui est sur la table, comme ça. Là, c'est quand même dur. Alors que lorsqu'on utilise, comme on voyait tout à l'heure, le réseau, donc Internet, tout passe par notre fournisseur d'accès à Internet. Donc, dans ces appareils, à notre fournisseur, on laisse des traces, potentiellement, des traces qui peuvent sauvegarder, puisque lorsque j'envoie une donnée vers Internet ou que je reçois un site web, mon fournisseur d'accès à Internet est chargé de faire transiter l'information entre le site web et moi. Donc, au passage, il peut éventuellement sauvegarder le fait qu'il a fait transiter cette information. Et puis, tout simplement, le site web que je visite peut aussi sauvegarder ça. Donc ça concerne actuellement toutes nos actions en ligne. Et puis même hors ligne, en fait. Dès que j'exécute une commande sur mon ordinateur, si j'ouvre un fichier, si je télécharge quelque chose, enfin télécharger c'est en ligne, mais même si j'ouvre un fichier que j'enregistre, hein, tout ça, c'est des choses qui, même si vous supprimez le fichier, après, il y a encore des traces. En fait, c'est pas très dur de retrouver. Donc en fait, tout le temps laisse une trace. Donc ça change énormément le paradigme, en fait, de penser par rapport à la vie physique pré-numérique, en fait. Qui a accès à ces traces? Les gens qui sont au premier abord, qu'on peut identifier facilement, comme disait les fournisseurs d'accès à Internet, les services en ligne, donc services en ligne, le site web qu'on visite, Les partenaires commerciaux, donc si je visite, on parlait de Libération tout à l'heure, le site de Libération, il y a des bannières de pub, et les bannières de pub, en fait, les entreprises qui sont derrière sauront que je vais visiter le site de Libé, et sauront quelle page j'ai vue. La police, dans certains cas, c'est problématique ou pas, ça dépend des cas, mais on peut ne pas avoir envie que la police ait accès à ces traces, pour pas forcément être dans un état totalitaire. Et en fait, par voie de contamination, bon, a priori, on peut espérer que la police, quand elle récolte des données, elle va pas les perdre dans la nature trop facilement. Mais dans ce domaine-là, le coût des partenaires commerciaux, en fait, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la revente de données. Donc en fait, voilà, une fois que c'est parti, on ne sait plus vraiment que ça va. Bon, du coup, qui va protéger nos droits, enfin là, notre droit en l'occurrence, le droit à la vie privée, dans ce contexte? Le monde des affaires est un peu devenu fou, puisque je réalisais récemment que les données personnelles aujourd'hui représentent une masse économique plus importante que le pétrole. Donc c'est devenu le nouveau pétrole, en fait. Donc, dans une certaine mesure, alors toutes les entreprises ne sont pas mauvaises, mais il y a beaucoup, un certain nombre de grosses entreprises qui massent beaucoup d'argent grâce au business fait sur les données personnelles de nous tous. Les États, malheureusement, c'est pas beaucoup mieux. Il y a tellement d'exemples. Au début, il y a la liste un peu plus longue. Le printemps arabe, bon, vous avez tous entendu parler. Moi, j'ai pas mal travaillé sur la Syrie. Il y a des gens, ils sont fait arrêter, mettre en prison, torturer, voire tuer. Pour un truc qu'ils avaient écrit sur Facebook, alors que normalement ça devait rester dans un cercle privé, etc. Donc c'est pas un... Enfin, en gros, le message, c'est que c'est pas un État qui allait vraiment dans le sens du respect de la vie privée, pour dire ça de façon... de faire un euphémisme. En France, en Occident en général, pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a la loi sur le renseignement, donc qui donne des pouvoirs de plus en plus forts à la police pour, par exemple, aller demander à un fournisseur d'accès à Internet ou un service en ligne vos données sans avoir auparavant acquis un mandat de la part du juge pour violer votre vie privée, en fait. Avant, ça, c'était pas possible. Il y a l'état d'urgence qui permet de faire des perquisitions comme ça, sur ordre du préfet. Maintenant, il y a une loi terrorisme, en plus, que j'ai même pas encore lue. Il y a les révélations de Snowden. Vous avez peut-être entendu parler de Edward Snowden, qui était un ancien travailleur pour la NSA aux États-Unis, et qui a donc a révélé à quel point la NSA, espionne massivement, en gros, hein, les communications de tout le monde à l'échelle mondiale. Voilà, la NSA est un organisme d'État aux États-Unis, bon, représentatif de la politique d'État. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai vu dans un reportage il n'y a pas très longtemps un truc qui m'a fait plaisir d'un certain côté. Il parlait juste après la Révolution française, d'un débat à l'Assemblée nationale du 28 juillet 1789 où des milices républicaines avaient capturé un ensemble de lettres et de courriers auprès de royalistes et les avaient remis donc à l'Assemblée nationale. Et il y a eu un débat sur... premièrement, il y a eu un débat, est-ce qu'on ouvre ces lettres? Donc déjà, c'est quand même fantastique qu'il y ait eu un débat sur... On a capturé des lettres de gens qui sont a priori contre l'ordre qu'on essaye d'établir. Ils ont débattu sur le fait que... Est-ce qu'il faut les ouvrir? Deuxièmement, ils ont conclu sur le fait que non, il faut pas les ouvrir. Parce qu'ils avaient conclu que on est en train d'essayer de construire un système où, notamment, ce droit-là, il prime sur l'arbitraire au nom de la sécurité. Et c'était extrêmement intéressant. De voir ça, de voir que ça n'a pas toujours été comme c'est aujourd'hui, et qu'en fait c'était même le fondement, 14 jours après la Révolution, enfin la prise de la Bastille en tout cas, un peu certaines choses qu'on a aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont pas forcément mieux, la surveillance du conjoint, de la conjointe, en installant une application qui va... espionner ses messages, pour savoir où espionner sa position géographique, pour savoir si, je sais pas, ils ont un amant ou quoi. Des enfants, de plus en plus, aussi. Et en fait, globalement, tout ça, c'est lié au fait que la surveillance dans le numérique En fait, c'est un marché qui est florissant, en fait. C'est génial, quoi. Si on veut faire du business aujourd'hui et gagner plein d'argent, il faut faire ça, si vous voulez être riche. Un peu d'études en informatique, puis vous rentrez là-dedans. La surveillance des peuples, donc un petit peu plus cette chose-là. On a une boîte française, Amesis, qui est par exemple a vendu à la Libye de Kadhafi de quoi surveiller toute sa population. Bon. Là, on rentre là. Gamma, une entreprise britannique qui a fait la même chose avec un autre pays du Moyen-Orient. Blue Coat, une entreprise américaine qui a vendu ça à la Syrie indirectement. Hacking Team, qui est une entreprise italienne qui a vendu ça à... je sais plus. Mais bon, y en a beaucoup. La surveillance familiale, très récemment, il y a eu cette entreprise française qui a fait la publicité sur d'une application, une application qui permet de surveiller en fait un logiciel espion qu'on installe sur l'ordinateur ou le téléphone de son fils, en l'occurrence de son fils du coup. Et la façon dont ils ont fait la publicité là-dessus, ils auraient pu utiliser n'importe quoi, mais c'est comment savoir si mon fils est gay. C'est choquant, on est en 2017. C'est choquant parce que derrière, en fait, on parlait tout à l'heure de l'émancipation et des droits des homosexuels, et ça revient des années en arrière. Et donc c'est vraiment à tous les niveaux. Et évidemment, il y a des personnes à qui ça parle. On a parlé de surveillance plutôt étatique, par rapport au droit à la vie privée, on va parler plutôt de profilage maintenant commercial.
Alors, Kéops a parlé tout à l'heure de traces numériques. Moi, je vais revenir un petit peu là-dessus, plus en détail. Il expliquait tout à l'heure qu'on laisse des traces absolument partout quand on utilise le numérique. Et c'est vrai, il y a deux types de traces. Il y a des traces que vous laissez très volontairement, et c'est des contenus que vous connaissez. Donc les traces visibles et volontaires, c'est typiquement quand vous allez remplir un formulaire d'inscription sur un site. Là, vous allez remplir tout un tas de champs qui sont obligatoires ou non obligatoires. Ça va être des articles de blog que vous allez poster, ça va être des photos, enfin, tout ce que vous pouvez poster sur Internet, en fait. Ça, c'est les traces que vous laissez très volontairement, et on fait un petit profil avec ça. Il y a un deuxième type de traces, où là, on n'a pas trop la main dessus. C'est des traces invisibles, qu'on appelle des métadonnées. Donc des métadonnées, en gros, c'est des données qui vont servir à décrire une autre donnée. Alors typiquement, on va avoir tout ce qui est historique de recherche, tout ce qui est géolocalisation, donc les coordonnées GPS, ça c'est une métadonnée. Là, les exemples que j'ai donnés, c'est plus quand on utilise un smartphone pour se connecter à Internet. Donc avec, ça va tracer l'historique des appels, l'historique des messages, toutes les applications, accès aussi à tout un tas de choses. Et par rapport à ces deux types de traces, autant les traces visibles, généralement c'est vous qui faites le choix de les laisser, puisque vous avez un peu la main dessus. Par contre, les traces invisibles, vous n'avez pas la main dessus. Et en plus, elles se collectent très facilement, parce qu'elles ne sont pas forcément considérées comme des données personnelles. Donc elles ne vont pas être protégées au même titre. Et la collecte se fait beaucoup plus facilement sur ces métadonnées. Il y aura des petits exemples ensuite de profils qu'on peut établir. Mais avant ça, pourquoi est-ce que des entreprises en fait établissent votre profil? On peut se dire qu'il n'y a pas franchement d'intérêt. Et en fait, si, comme tu as mentionné tout à l'heure, il y a la publicité. La majorité, enfin pas la majorité, mais on verra après par rapport aux GAFAM, il y a les grosses sociétés du numérique reposent en principe, en majorité. J'ai mal formulé cette phrase. Le modèle économique principal, c'est la publicité, en fait. Elles vont gagner de l'argent par rapport aux publicités qu'elles vont mettre sur les pages. Comme elles vont aussi établir des profils, elles vont pouvoir revendre toutes ces données qu'elles-mêmes ont collectées. Donc c'est un cercle vicieux, en fait, qui se nourrit lui-même, et ça, c'est très très rentable. Il y a deux dérives à ça. Enfin, en tout cas, celle qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est complètement tracé partout, surtout sur la géolocalisation. On peut arriver à dresser des profils plutôt complets d'une personne. Enfin, je pourrais vous donner des liens plus tard. Il y a des articles absolument incroyables où juste en regardant ce qui se passe, enfin les données collectées sur une personne sur un trajet pendant une semaine, on peut retracer sa biographie. En fait, ça va être impressionnant. Et sur les dérives possibles et futures, c'est ce vers quoi on tend avec le profilage, c'est tout ce qui est prédiction de comportement. J'ai pas donné d'exemple ici, mais ce qui peut être amené à faire, ce sera pas forcément dans le domaine du profilage commercial, mais il faut savoir que c'est ces algorithmes, en gros, qui permettent d'amasser un certain nombre de données, de traiter des profils, peuvent être réutilisés après dans d'autres cadres, donc, par exemple étatique ou avec la police pour tracer des profils des gens. Je me souviens plus de l'exemple que tu mentionnais, c'est la police de Chicago qui utilise, qui fait du profilage et qui. Du coup, je me souviens
plus. En fait, c'est toi qui sais.
C'est la police de Chicago qui dresse des profils pour essayer de déterminer parce qu'ils ont pas assez. Enfin, ils veulent pas mettre suffisamment d'argent pour aller patrouiller partout. Du coup, ils vont demander à un ordinateur où est-ce qu'il faut aller patrouiller. Mais bah, bon, du coup, quand les méchants ils sauront ça, ils ont juste à savoir ce que l'ordinateur répond et aller ailleurs.
Les méchants ils sont bons avec les ordinateurs.
Donc je vous parle de profilage, on va voir un petit peu plus.
Il a vu sauter le char des
sauts. Ah d'accord. Bon, alors à la limite, ce dessin sert juste à montrer que bon, profilage, c'est peut-être pas si méchant. Au final, souvent on se dit qu'on n'a pas tant que cette chose à cacher, que c'est pas bien grave si tel ou tel service, c'est ce qu'on fait sur internet, c'est quand même pas très méchant. Mais en fait, ils vont pas juste connaître une sauce de spaghetti. C'est pas la seule de faire. Là, j'ai pris quelques applications. Bon, je sais pas dans la salle si vous l'utilisez toutes. Au moins une, peut-être deux, peut-être trois. C'est les applications les plus utilisées dans leur domaine. Google, c'est quand même le moteur de recherche principal. Pour les mails aussi, c'est très utilisé. Google, lui, ce qu'il va réceptionner, donc, c'est très loin d'être exhaustif. Hein. Les historiques de recherche, vos déplacements, parce qu'en fait, on prend beaucoup de réflexes aussi d'aller sur Google Maps, par exemple. Google, si vous l'utilisez pour ses mails, va avoir tous vos contacts, tous les contacts mail, tous les contacts téléphoniques avec les appareils Android. Il va enregistrer les communications, donc ça fait déjà pas mal d'informations sur vous. LinkedIn, je ne sais pas si vous l'utilisez. C'est très utilisé, peut-être un peu plus dans nos générations, à tous les trois. Même si on n'a pas de compte LinkedIn tous les trois. Mais c'est très très utilisé. Moi, je sais que typiquement à la fac, on me disait qu'il fallait que je crée un compte LinkedIn, en fait. C'est comme ça que j'allais créer mon réseau professionnel et ma vie active allait démarrer. Je l'ai jamais fait, ça va quand même. LinkedIn, en gros, s'adresse des contacts professionnels. Bon, pareil, on se dit, c'est cool, on fait du réseau. Par contre, ça s'adresse aussi absolument tout votre CV. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être moyen de deviner même le prochain métier de la personne, en fait, en fonction des réseaux qu'elle s'est fait. On estime qu'elle change de travail à peu près tous les deux ans, vu des données qu'elle a laissées. Bon, là, on va peut-être se diriger vers ta entreprise, je sais pas. Facebook, pareil, c'est très utilisé comme réseau social pour rester en contact avec des amis. Partager des soirées, des voyages. Donc bah, on va pouvoir obtenir plein de photos, on va pouvoir obtenir tous les gens qu'on fréquente. Où est-ce qu'on les fréquente? Parce qu'il y a aussi des données de géolocalisation. Généralement, Facebook, on poste des messages dessus. Donc pareil, on va pouvoir, ils vont pouvoir référencer nos opinions, nos pensées, nos goûts, parce que Facebook incite quand on remplit son profil, à venir dire quel film on a aimé dernièrement, quel livre on a lu, quelle association on aime bien, quelle association on n'aime pas du tout. Voilà, ça dresse un beau panel aussi. Twitter, c'est plus sur tout ce qui est pensée ou opinion. C'est tout aussi problématique. Et Amazon, qui est très utilisé pour l'achat en ligne. Je ne sais pas comment ils sont positionnés sur le marché, mais ils doivent être pas mal. Enregistre absolument tous les achats qu'on fait. Ça, jusque-là, ça va, ce serait embêtant sinon. Par contre, Amazon mémorise absolument toutes les recherches qu'on fait également pour nous faire des suggestions après. J'ai placé le terme opinion sur le type de profil, parce que l'un des soucis avec Amazon, typiquement, c'est qu'on va pas forcément y acheter que des tomates ou des pommes de terre. On y achète des livres, on y achète des films, et en fait, ça, c'est caractéristique des opinions. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis 5 applications lambda qu'énormément de gens utilisent, les 5 combinées. Je pense que si on réunit les 5 profils d'un utilisateur, on a facilement sa vie. Et pour ça, c'est que les contenus qu'on choisit de publier. À côté de ça, ces entreprises, elles vont collecter, donc je parlais des métadonnées tout à l'heure. Et là, je mets juste celle que tout le monde enregistre, ça va être l'adresse IP, numéro de téléphone, date et heure de connexion, localisation. Ça ajoute énormément de données pour pouvoir tracer quand est-ce que la personne se connecte. Typiquement, avec les dates et heures de connexion, on peut très bien savoir quels sont vos horaires de travail. On sait que vous vous connectez prendre un exemple, vous consultez vos mails sur Gmail avant d'aller au travail. Vous faites un petit tour sur Facebook plutôt après avoir débauché. Vous faites un petit tour sur Amazon plutôt le week-end, il y a plus de temps. Voilà. Donc, ça ajoute énormément d'informations, en fait, les métadonnées. Kiops parlait d'anonymat tout à l'heure, on va y revenir un petit peu aussi. Concernant ces métadonnées, il y a un argument qui est souvent avancé, pas que les métadonnées, les profils en général. Quand les entreprises comme ça vont collecter des données, elles vont se cacher derrière l'argument toutes ces données, on les a anonymisées. Du coup, c'est pas dérangeant. C'est quand il y a un traitement sur les données. Mais il n'y a pas que les entreprises qui font ça. On parlait des mauvaises pratiques de la ville de Nantes. Dans ce domaine, ils sont pas mal aussi. Je ne sais pas si j'ai mis l'exemple d'ailleurs. Je pourrais le donner après. Donc en fait, à chaque fois qu'ils exploitent les données de connexion, ils se cachent derrière cet argument, c'est anonyme. En fait, pas du tout. Enfin, comme je vous disais, en fonction des heures de connexion, en fonction de la géolocalisation, du trajet, domicile, travail. Bon, quand on habite dans un immeuble, il y a plusieurs choix possibles. Quand on habite dans une maison, c'est un peu plus compliqué. Donc on ne peut pas garantir l'anonymat, en fait, quand on fait de la collecte de données massives comme ça. Quand on fait du regroupement d'informations, du croisement de données, c'est ce que j'aborde à la fin, on n'a plus cette notion d'anonymat. Elle disparaît complètement. Je peux peut-être vous donner l'exemple, du coup, de la ville de Nantes, qui était intéressant. Ils ont lancé un appel d'offres l'année dernière, enfin dans l'année là, pour étudier les déplacements des citoyens de la métropole. Pour ça, ils voulaient recueillir des données d'un opérateur. C'est déjà qui va gagner, ça va être Orange. Et dans leur appel d'offres, ce qui était mentionné, c'est bien entendu, les données vont être anonymisées, il n'y aura absolument pas de problème là-dessus, pour recueillir toutes les infos mobiles des citoyens nantais. Dans les plus petites lignes, quand on regarde, ils s'autorisaient à recueillir les informations de profil de l'opérateur concernant l'utilisateur, donc dans les profils, on sait tout ce qu'il y a, hein, nom, prénom, âge, sexe, des choses qui sont vachement liées à l'identité quand même. Et puis, ils s'autorisaient aussi le croisement de données. Et donc, quand ils pensent croisement de données, la métropole a déjà énormément de données sur les citoyens. Il y a un service de Biclou, qui c'est des vélos en libre accès. Bon, je ne sais pas si on a bon point, il y en a à Vannes, mais je ne sais plus c'est quoi le ici. Donc pareil, là, il y a tout un tas de données. Ils ont des données sur tout ce qui est complexe sportif, en fait. Inscription à la piscine, inscription au salle municipale. Et du coup, ils s'autorisaient dans cet appel d'offres, à faire du croisement de données avec les données qu'ils possédaient déjà. Et là, concrètement, l'anonymat, on l'a plus. Donc ça, c'est... Ça peut faire peur, il faut garder ça en tête. Toutes ces entreprises qui collectent des données pour faire un petit peu plus d'argent, bah, elles ne sont pas à l'abri de petits problèmes. Alors des fois c'est un problème de sécurité, des fois c'est juste une défaillance humaine, c'est, Ça peut venir de tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que souvent, c'est des erreurs plutôt bêtes, en fait. Par contre, une erreur plutôt bête qui a fait une très mauvaise pub à Yahoo, c'est la fuite de données de 1 milliard d'utilisateurs de Yahoo. C'est un petit peu énorme, 1 milliard. Ce qui est plus embêtant, c'est que la fuite était datée de 2013, qu'elle a été découverte en 2016. Ils ont mis un petit peu de temps à réagir. Ça leur a fait une très mauvaise pub. Je ne sais pas où ils en sont, mais je crois que sur le marché, ils sont un petit peu en perte de vitesse depuis cette mauvaise pub. Et puis, ce qu'on pouvait trouver, c'était les noms, les mails, les mots de passe, les numéros de téléphone. Et donc, il y a plein d'adresses Yahoo qui ont servi à faire du spam derrière. Deuxième exemple, qui est tout aussi impressionnant et qui est plutôt récent, c'était l'année dernière, pendant la campagne aux élections américaines. Deep Roots Analytics, c'est une société qui a été missionnée par le Parti républicain aux États-Unis pour faire de l'analyse des citoyens, pour pouvoir connaître leurs envies et forcément bâtir une campagne sur l'analyse des gens pour mieux répondre à leurs besoins. Cette société a bien fait son travail, je pense. Elle a collecté plein de données de 198 millions d'électeurs américains. Le seul problème, c'est qu'elle les a placées à un endroit sur Internet sans sécurité. Donc en fait, c'était accessible à tous. Ce qui est encore plus embêtant, c'est que comme elle a fait une étude approfondie des électeurs américains, il y avait vraiment beaucoup de données. Nom, prénom, âge, sexe, orientation politique, orientation sexuelle, opinion, il y avait tout. Je ne sais pas s'il y aura l'utilisation frauduleuse de tout ce fichier. Au final, il n'est pas resté si longtemps en ligne, mais le fait est que l'entreprise n'a pas cherché à sécuriser en fait, les données d'un bon paquet d'électeurs américains. Un dernier exemple, c'est moins de données qui ont fuité, mais c'est tout aussi symptomatique du problème. Enfin, c'est pas... Là, on n'est pas dans la collecte d'informations, mais plus sur une prise de conscience qu'aujourd'hui, le numérique, il est un petit peu partout. Donc, les données, elles sont partout. Elles naviguent autour de nous. Les données médicales en font partie, en fait. Elles sont aussi hébergées sur des espaces de stockage en ligne, souvent. En soi, c'est pas du tout un problème quand c'est sécurisé. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'une faille. Donc, un autre exemple de fuite de données. L'année dernière, dans le Nord, un groupe hospitalier privé, pareil, a laissé les données médicales sur un serveur en accès libre. Ce n'était pas protégé. C'est un journaliste qui faisait une recherche sur... il voulait retrouver une vieille enquête, quelque chose comme ça. Et en farfouillant sur Internet, il est tombé sur toutes ces données. Donc des résultats de bilan sanguin, des comptes rendus d'écho, des comptes rendus de scan. Voilà, il y avait tout, c'était festival. Donc c'est pour montrer que toutes ces données qui sont sur Internet, on peut aussi être exposé à des fuites, et il faut faire très attention parce qu'on traite de données personnelles, et il faut vraiment faire attention à les préserver. On enchaîne sur les GAFAM, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Je vous ai montré tout à l'heure, donc avec les entreprises qui font du profilage, on en retrouve quelques-unes ici, hein, Google, Amazon, Facebook. Mais dans les GAFAM, il y a aussi Apple et Microsoft. Et donc les GAFAM, qu'est-ce que c'est? Ce sont les plus grosses sociétés dans le numérique, qui occupent les plus grosses parts de marché dans leur domaine. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'en fait, ces sociétés qu'on connaît très bien au quotidien, parce que... au boulot, on va utiliser un ordinateur qui est sous Windows, des fois on va acheter quelque chose sur Amazon, on va poster un petit truc sur Facebook, on aime l'iPhone ou on ne l'aime pas, on utilise Gmail. On est quand même très souvent confronté en fait, à ces grosses sociétés qui sont vraiment omniprésentes sur le marché. On a l'impression que c'est des services gratuits souvent qu'elles nous offrent. Enfin, Apple, c'est un peu plus compliqué vu le prix des produits, mais Google, Facebook, Amazon... on a l'impression que c'est des personnes gentilles qui nous fournissent un service gratuitement, c'est super sympa de leur part. Pour autant, elles sont en tête sur leur marché et elles font chacune des milliards de chiffres d'affaires par an. Google, Facebook, c'est la publicité. Il n'y a pas que ça dans leur chiffre d'affaires, mais ça représente les trois quarts de leur chiffre d'affaires, qui se compte en milliards d'euros. Apple, c'est leur produit. Amazon, c'est ses produits, ses services et la revente de données aussi, vu qu'elle collecte plein de choses. Microsoft, c'est voilà, le système privateur avec les licences, mais on en parlera plus tard. Donc ce que j'expliquais, comment ils fonctionnent, bah, ils ont une position de monopole en fait sur leur marché, donc ils se portent plutôt bien. Généralement, ils vont proposer des services gratuits. En fait, c'est pas vraiment gratuit parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, ils font du profilage avec les données, ils font de la publicité, et les données qu'ils collectent, ils les revendent. Donc le service, en fait, il n'est pas gratuit du tout. Un autre problème de ces sociétés qui... Enfin, en soi, c'est pas un problème qu'elles soient situées aux États-Unis. C'est pas du tout un problème. Par contre, elles ont un monopole sur leur marché qui est tellement puissant. Finalement, ça pose problème, parce que on vient mettre nos données, on vient les stocker aux États-Unis. Ça non plus, c'est pas trop un problème. Le problème, c'est que les sièges sociaux se trouvent aux États-Unis. Et là, c'est plus compliqué en termes de juridiction et de droit. Je pense qu'on peut enchaîner sur l'autre. Alors, le droit des utilisateurs avec les GAFAM, ça pose quelques soucis, notamment en termes de liberté d'expression, parce que comme ils ont un monopole sur leur marché, ils se permettent pas mal de choses, il y a aussi des partenariats qui sont faits avec les États, des fois pour brider un certain nombre de contenus. Là, je vous montre deux exemples qui sont plutôt récents. YouTube, qui a fait demi-tour toute après que les utilisateurs ont râlé un petit peu, YouTube a voulu améliorer son mode restreint. Donc c'est le mode restreint, c'est quand des contenus vont être autorisés seulement si on est connecté sur la plateforme et montrer qu'on est majeur. Ils ont voulu mettre à jour l'algo en se disant, voilà, on va faire attention à montrer un petit peu moins de nus. Et puis, bah, je sais pas ce qu'il y avait dans leur algo, mais il devait y avoir quelque chose qui allait pas, parce qu'en fait, ils ont bloqué 12 millions de contenus liés à la communauté LGBT. C'est un petit peu embêtant, parce que typiquement, dans ces vidéos, des fois, il n'y avait rien de mal. Il y en avait une, c'était un mariage de deux hommes. Un mariage, généralement, plutôt habillé, enfin voilà. Il n'y avait pas de raison de bloquer ces vidéos. Et pourtant, YouTube a tout passé en mode restreint et les a dépubliés. LGBT, c'est lesbienne, gay, bi, trans, queer. Voilà, j'ai réussi, j'ai trouvé. Un autre exemple, en septembre 2016, enfin, ça c'est un parmi tant d'autres, mais celui-là est un peu plus problématique. Facebook a un petit problème avec le nu, avec les tétons surtout, mais comme Instagram qui lui appartient aussi. Et Facebook a décidé de censurer la photo de la petite fille au napalm suite au bombardement d'Hiroshima. Alors quand Facebook décide de censurer...
Vietnam.
Merci. Ouais. Donc quand Facebook décide de censurer des photos de nu, c'est déjà problématique. Enfin, ils avaient censuré typiquement le tableau L'Origine du Monde. Ils adorent censurer de temps en temps des statues italiennes parce qu'on y voit des fesses. Là, c'est d'autant plus problématique parce qu'il y a une question historique derrière de bloquer ce genre de contenu, en fait. Donc, liberté d'expression, c'est plus compliqué. Un deuxième problème avec ces services, c'est les CGU. Donc, les CGU, c'est les conditions générales d'utilisation. Je ne sais pas si ça vous parle à tous.
Okay. Ouais, tu peux les appeler. Ouais. C'est ça le problème.
Oui. Il faut les lire déjà.
Ouais.
On n'a pas forcément l'habitude de les lire, parce qu'en même temps, c'est une activité extrêmement désagréable. C'est écrit en tout petit, c'est très long, et c'est souvent pas très intéressant, sauf sur certaines petites lignes qui peuvent être problématiques quand même. Les CGU de ces services sont généralement assez imbuvables et contiennent de grosses aberrations. Là, à titre d'exemple, l'UFC Que Choisir en France a attaqué Facebook, Google et Twitter en 2014 pour CGU abusives, justement, et a gentiment appelé les utilisateurs à faire attention à leurs données. Les raisons qu'a invoquées l'UFC Que Choisir, c'est que les conditions étaient inaccessibles et illisibles, ce qui est majoritairement le cas. Que ces CGU contenaient précisait qu'il faisait, les services allaient faire de la collecte, de la conservation, de l'exploitation des données des utilisateurs, mais aussi de l'entourage, et là c'est poussé le vice un petit peu loin, et qui s'autorisait l'exploitation commerciale des données sans l'accord express de l'utilisateur. Quand on parle de protection des données, quand on milite pour la protection des données, un terme qu'on aime mentionner, c'est le consentement explicite. C'est ce qu'on revendique, c'est que l'utilisateur puisse donner son consentement explicite pour l'exploitation de ces données. Et généralement, dans les CGU, en fait, on cède un grand nombre de droits. Un exemple, quand on préparait la conférence, on rigolait tous les trois justement sur cette slide en pensant typiquement à Marmiton, qui a fait un livre avec les recettes de tous les utilisateurs qui ont posté des recettes sur Marmiton. Parce qu'il faut savoir que quand vous mettez une recette sur Marmiton, et ben vous cédez la recette à Marmiton. Et ils ont poussé le vice jusqu'à faire un bouquin en vendant les recettes de ses utilisateurs. Et voilà, c'est assez merveilleux. En fait, il n'y a pas que les grosses entreprises, des fois, qui considèrent que c'est des grosses entreprises qui peuvent être très méchantes, mais Marmiton qui paraît plutôt sympa, parce que juste on partage des recettes de cuisine. Eux aussi, ils font un peu n'importe quoi avec les données, en fait. Là, en gros, on a vu la concentration des services avec les GAFAM et les grosses sociétés qui collectent plein de données. Une solution pour ça, pour protéger un petit peu plus le droit des utilisateurs et leurs données personnelles, c'est de décentraliser les services. Alors, ce qu'on appelle décentraliser, ça va être augmenter le nombre d'acteurs sur le marché, ou ça va être physiquement décentraliser les lieux où sont stockées les données. Chose. Pourquoi est-ce que c'est bien de décentraliser les données? Bah, ça augmente la résilience des services. Donc là, je vous donne un exemple avec Twitter versus Mastodon. Je ne sais pas si vous connaissez Mastodon. Peut-être juste quelques-uns. C'est le nouveau Twitter, en gros. C'est exactement le même principe, hein. C'est un réseau social qui fonctionne oui, comme Twitter, il n'y a pas la restriction des 140 caractères, il me semble. Et l'une des grosses différences, c'est que les instances Mastodon, ça parle pas trop quand je dis ça, en gros vous pouvez chacun avoir votre petit Mastodon chez vous, que vous allez héberger. Et les gens vont pouvoir venir créer un compte via la plateforme que vous mettez à disposition. C'est comme si plein de personnes avaient un petit Twitter chez eux, mais pas dans le sens j'ai accès au site internet. C'est vraiment j'ai un service qui tourne chez moi et des gens peuvent se connecter dessus. Et là où c'est intéressant, c'est typiquement Twitter tombe, on ne peut plus se connecter à Twitter, quoi. C'est fini jusqu'à ce que ça revienne. Mastodon tombe, il y a une instance de Mastodon qui va tomber, celle qui est à 5 km chez le voisin, elle va continuer de tourner, ça se passera bien. C'est en ça que ça augmente la résilience d'avoir des points d'entrée différents, en fait. Deuxième point, ça évite les blackouts. Donc ça, c'est un peu ce que j'étais en train d'expliquer aussi. Là, l'exemple, c'est donc les mails. Typiquement, Gmail tombe pendant une heure. Bon, bah, les utilisateurs de Gmail peuvent plus envoyer de mails. Par contre, les utilisateurs de... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Hotmail vont pouvoir continuer à échanger sans aucun problème. Troisième point de la décentralisation, c'est qu'on peut choisir sa juridiction. Comme ça paraît peut-être un petit peu flou, mais typiquement si on choisit d'héberger, on veut monter son site internet, son blog, des fois on peut avoir envie de se renseigner sur dans quelle entreprise je vais aller pour héberger mon site en fonction des droits qu'il y a dans le pays. Typiquement si le réseau est surveillé en plus. Quand je parlais des CGU tout à l'heure, c'est très difficile pour les utilisateurs de faire valoir leurs droits concernant les données personnelles quand le siège social de l'entreprise se trouve aux États-Unis, parce que c'est le droit américain qui s'applique. enfin, c'est pas forcément le droit américain qui s'applique, mais typiquement dans le cadre de Facebook, c'est pas très légal ce qu'ils ont dit. En tout cas, en France, ils se renvoient la balle avec les tribunaux français. Parce que dans leur CGU, il est mentionné que ce sont les tribunaux de Californie qui sont compétents pour juger en cas de problème. C'est pas les tribunaux français. Et donc le dernier point, la décentralisation, ça permet d'apporter de la diversité sur le marché, ça va donner donc plus de choix à l'utilisateur, et ça va permettre plus d'innovation chez les acteurs aussi, parce qu'un petit pourra plus facilement émerger sur le marché. Il ne sera pas étouffé par les autres. Une deuxième solution aussi pour protéger ces données, c'est l'auto-hébergement. Ça paraît un petit peu barbare comme ça, l'auto-hébergement. C'est pas forcément quelque chose de facile, en plus, quand on ne connaît pas techniquement. Par contre, ça a deux gros avantages. C'est que ça permet de reprendre le contrôle de ces données et aussi des services qu'on utilise parce qu'on va les héberger. Je sais pas si ça vous parle à tous, la notion d'auto-hébergement. Je vois pas beaucoup de têtes faire oui. Alors, si j'essaie d'expliquer ça simplement, l'auto-hébergement, j'aurais dit à mettre une petite brique. En fait, je vais prendre l'exemple avec la brique internet que j'ai mis en dessous, ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez la petite photo, là, ce petit boîtier. Alors en vrai, ça fait la taille d'un paquet de cigarettes, je crois, quelque chose comme ça, à peu près. Oui, ça doit faire la taille d'un paquet de clopes. Ce qu'on fait, oui, dans notre cas perso. C'est ça que je pensais avec la brique. Donc ça, c'est pas la nôtre, hein. C'est parce qu'on n'a pas pris de jolies photos de notre brique. Celle-ci est bien mieux. Une brique internet, donc c'est un petit boîtier qu'on va brancher sur sa box. Alors elle fait deux choses. La vocation première de la brique, c'est de fournir un VPN. Donc un VPN, c'est un réseau privé virtuel. Pour faire très simple, en gros, vous avez... Vous avez votre box internet, donc Free, Orange, Bouygues, peu importe. Vous avez votre petite brique qui est connectée à la box. Donc jusque-là, c'est le réseau Orange, Free, Bouygues, etc. qui circule. Vous branchez votre brique, vous avez du VPN qui sort, c'est un autre réseau sécurisé. C'est un réseau sécurisé. Et typiquement, nous, à Fait Maison, on fournit du VPN. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez aller sur Internet, c'est nous qui vous emmenons. On est la petite porte de sortie. C'est plus le Free. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un tunnel chiffré, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se forme. Là, je me suis éloignée de l'auto-hébergement, du coup, je vais y revenir. Le deuxième intérêt de cette petite brique internet, c'est qu'on peut héberger des services dessus. Il y a une petite distribution qui est installée. Il faut quand même savoir se dépatouiller un petit peu, mais ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut, du coup, héberger des services. Alors, typiquement, il y a une... dans mon appartement, j'ai une petite brique comme ça. On a un service de sondage en ligne. Donc, je ne suis pas obligée d'utiliser... c'est Doodle, je crois, le plus connu sur le marché. Je peux utiliser... mon application de sondage à transmettre à mes amis, et je passe pas par Doodle. Je peux héberger mes mails. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on écoute notre musique. On a branché un petit disque sur la brique pour stocker toute notre musique, et puis du coup, je peux accéder à ma musique n'importe où, tant que j'ai Internet. Voilà, j'utilise pas Deezer, j'écoute ma musique. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application? Il y a des applications de partage de fichiers. Ça va vous permettre, du coup, de... pareil, plutôt que d'utiliser un service tiers pour partager un fichier avec un proche, vous allez le mettre à disposition sur votre petite brique, en fait. Et la personne va y accéder, comme ça, votre donnée, elle reste chez vous. C'est l'avantage, c'est que vous allez pas stocker vos données ailleurs, en fait. Vous allez héberger vos services et vos données, vous allez les stocker. Elles sont chez vous. C'est ça la grosse différence. Du coup, ça parle peut-être un petit peu plus sur votre hébergement. Il y a un petit peu plus de oui, mais pas ça. On va en parler après.
Vous avez confiance dans vos proches?
Pardon?
Vous avez confiance dans les proches?
Pas de ça l'avantage quand même qu'on les connaît. Oui, non, mais c'est vrai, c'est très important parce que la relation qu'on a à l'autre, la relation de confiance, justement, elle est complètement dissoute. Elle est complètement dissoute dans les grands services, justement. Alors que quand vous vous adressez à une association ou que vous avez votre service à vous, quand c'est vous qui décidez un peu la sphère que vous ouvrez, alors peut-être, évidemment, on peut jamais faire totalement confiance peut-être à tout le monde. Après, chacun est libre de faire confiance à qui il veut. Mais au moins, vous avez une vision. Alors que sur les grands services, c'est totalement anonyme.
C'est plus facile de taper sur son voisin que sur Mark Zuckerberg.
Après, qu'on soit bien d'accord, en utilisant la brique, on ne partage pas l'ensemble de ses données à ses proches. Et on peut mettre plus facilement à disposition des fichiers, des contenus, mais c'est pas un partage de l'ensemble des données. C'est sécurisé, quand même. Oui, c'est... Je sais pas qui a dit ça, mais c'est un peu l'idée. C'est comme un disque dur connecté, sur lequel on va héberger des services web, en fait. C'est vrai, c'est ça. Oui, sauf que vous allez héberger des applications web dessus.
En plus, tu vas gérer la possibilité. Comment les gens vont y accéder? C'est ça qui est en plus.
C'est pas seulement toi qui auras accès. Si tu décides.
Si je décide, ça.
C'est tout l'esprit de la chose.
Comment ça s'appelle quand tu peux rentrer sur votre site et puis prendre la possession de vos commandes pour faire une manipulation que tu ne veux pas faire?
Ça, c'est quand on se fait hacker une machine, mais c'est de web, c'est un cas.
Oui,
on ne traite pas français.
C'est
explosif.
TeamViewer. Ça, c'est un logiciel qui est fait pour. Ouais. C'est quelqu'un qui peut prendre le contrôle de votre machine à distance pour faire à votre place des opérations. Mais ça, faut que vous donniez l'autorisation, c'est pareil. C'est pas du piratage, je veux dire.
Je reprends du coup, je vous parlais d'auto-hébergement. Ça peut être un peu complexe, même si grâce à des solutions comme la brique internet, ça simplifie, ça vulgarise davantage l'auto-hébergement auprès du grand public. Par contre, il y a une autre initiative qui est très bien, qui est apparue cette année, c'est les chatons. Ils ont réussi à caser des vrais mots derrière l'appellation chaton. Donc, ce qu'ils ont mis, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est très bon comme ça. C'est une initiative de l'association Framasoft, je ne sais pas si vous la connaissez, qui promeut le logiciel libre, la Soconi. Et donc Framasoft met à disposition les exemples de services que je vous ai montrés, donc des sondages en ligne, des agendas en ligne, du traînement de texte collaboratif, du tableur collaboratif. Je ne saurais même pas citer tout ce qu'ils font maintenant, parce que c'est assez impressionnant. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement grossi que ça commençait à être un petit peu dur à gérer. Et du coup, là, on en revient à la notion de décentralisation. Ils avaient envie de garder de l'humain, ils n'avaient pas envie de grossir en tant qu'association. Ils voulaient... En fait, ça me fait penser à...
Ils ne voulaient pas devenir Google, en fait.
Oui, voilà, ils n'avaient pas envie de gérer des milliers d'utilisateurs. Et puis, humainement, c'est compliqué, ça ne les intéresse pas, ça les intéresse pas. L'humain, si, mais pas de gérer des milliers d'utilisateurs parce qu'il n'y a plus d'humains, justement. Du coup, ils ont lancé un appel pour créer ce genre d'initiative un petit peu partout en France. Donc, c'est l'initiative des chatons, où n'importe qui peut se déclarer chaton. C'est pas forcément... ma phrase est peut-être pas très claire, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas, on va pas se déclarer association chaton. C'est des entreprises peuvent être un chaton, un particulier peut l'être. À partir du moment où vous mettez à disposition tout un tas d'outils sans capter les données de vos utilisateurs, ça va de soi, et il y a une charte à respecter. Charte, ouais. Tout le monde ne peut pas le faire, et en même temps, tout le monde peut le faire si il respecte la charte. Donc voilà, les exemples de services, c'est vous allez pouvoir héberger vos mails dans un chaton, vous allez pouvoir stocker vos données, partager des fichiers, envoyer des sondages, faire tout un tas de choses. Là encore, vous allez du coup vous passer des grosses entreprises sur le marché. Vous n'allez pas utiliser Framasoft pour les laisser gérer le petit noyau d'utilisateurs qu'ils ont, et vous allez passer par une alternative locale. Alors vous pouvez aller sur, il y a un site du coup, chaton.org, où vous pouvez trouver des chatons. Moi quand j'ai regardé, j'en ai pas vu d'initiative se monter dans le Morbihan, du coup c'est peut-être l'occasion. montrer. Hein. À Nantes, on en a un qui s'est monté, on en a un qui s'est monté à Rezé, à Rennes, je crois qu'il y a plus de deux initiatives aussi, il me semble. Ils s'en montent un petit peu partout, alors c'est le début, mais ça va permettre d'utiliser, d'utiliser des services locaux, et du coup ça crée de l'humain aussi, parce que c'est les personnes qui vont mettre à disposition ces services et qui vont faire vivre ces structures. Vous allez pouvoir les rencontrer, vous allez pouvoir dialoguer avec eux, ils vont pouvoir vous apprendre comment ça marche. C'est tout de suite plus intéressant que juste accéder à un service gratuit qui collecte nos données. La dernière alternative que je propose, c'est les logiciels libres. On a vu qu'on pouvait décentraliser les services, qu'il y avait des alternatives qui naissaient. Il y a aussi les logiciels libres qui sont une bonne réponse pour protéger ces données. Alors un logiciel libre, je pense quand même qu'ici il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est, mais pour rappel, le principe du logiciel libre, c'est qu'il répond à quatre libertés. La liberté d'utiliser un logiciel, de l'étudier, de le copier et de le redistribuer après modification. À mon avis, tout le monde a utilisé déjà un logiciel libre dans sa vie. Il y en a quand même un certain nombre. Firefox, c'est peut-être le plus connu en navigateur, même si Chrome a piqué la place un petit peu. Thunderbird pour les mails. LibreOffice, qui est pas mal utilisé. Perdu, ça fait comment on vend LibreOffice ? OpenOffice, merci. Je veux bien que tu passes à l'autre. Donc les logiciels libres, ça répond à plusieurs intérêts qui sont dans notre intérêt à tous. C'est surtout des valeurs humaines derrière, même si on est sur un sujet technique, là, à parler de logiciels, c'est du code hein, derrière, et pourtant c'est extrêmement humain. Les objectifs des logiciels libres, c'est de servir l'intérêt de la collectivité et pas l'intérêt d'un petit groupe. Ça va être de favoriser l'autonomie des utilisateurs, donc ils vont pas être dépendants à des licences, par exemple. Typiquement, sur ces deux premiers points, j'ai en tête l'opposition avec des modèles comme Microsoft, qui peut imposer des mises à jour, qui impose des licences qui sont coûteuses. Dans le domaine du professionnel, en entreprise, c'est très onéreux. Un autre intérêt au logiciel libre, c'est que ça encourage le partage et le travail collaboratif, parce que c'est des communautés de gens qui travaillent ensemble. Ils collaborent ensemble, ils amènent un cadre qui va permettre à chacun de contribuer dans différentes mesures. Hein. C'est pas, quand je parle de travail collaboratif dans le logiciel libre, c'est pas forcément être derrière son PC à coder. En fait, il faut aussi designer les logiciels, il faut aussi les traduire. Il faut aussi, des fois, ça va être juste créer une page, un site web qui va parler de ce logiciel. Il faut documenter comment les logiciels fonctionnent. Ça peut pas fonctionner sans la communauté, en fait. Un autre point important des logiciels libres, c'est que ça développe une autre approche de l'économie. À l'inverse d'un modèle comme Microsoft, qui est très fermé. Puisque les logiciels libres, tout le monde a accès au code, tout le monde a possibilité de modifier une fonctionnalité du logiciel pour son propre usage ou pour l'usage de l'ensemble. Ça favorise la réappropriation, en fait. On n'a pas à réinventer la roue à chaque fois, on peut se servir de ce qui a déjà été bâti. Et en ça, c'est une toute autre approche de l'économie. Un dernier point qui est très important pour les utilisateurs, c'est comme ce code il est ouvert, on peut regarder ce qu'il y a dedans, on peut regarder s'il y a des choses qui sont pas bien, qui marchent pas trop. Alors quand on n'y connaît rien, on va pas aller s'amuser à regarder le code d'un logiciel. Par contre, on peut se reposer sur la communauté qui veille à la sécurité de ces outils, et en ça, c'est un gage de confiance pour l'utilisateur.
Donc, on a déjà beaucoup parlé d'Internet, Et donc, on vous a un petit peu présenté la fracture numérique, pourquoi c'était important de protéger Internet, quelles étaient toutes ces menaces qu'il y avait un petit peu sur Internet. Et donc, voilà, pour conclure cette première partie, on va essayer de vous présenter un petit peu le futur d'Internet tel qu'il est en train de se dessiner. Et donc, Internet est plutôt parti pour rester et aller partout. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des choses très bien sur Internet. Mais il faut être vigilant. Alors, pourquoi est-ce que Internet va venir vraiment partout? Les objets connectés. Donc, ça va être les stores, les lampes connectées, les réfrigérateurs connectés, les grille-pain connectés, tout va être connecté. Et quand on dit connecté, c'est bien sûr connecté à Internet. Multiplication des capteurs connectés. Le OK Google. Et voilà, pour savoir, OK Google éteint la lumière. C'est très bien, mais bon, ça veut dire qu'en fait, il y a toujours un appareil qui va être en train de nous écouter. Alors, on va tous faire confiance à Google pour nous écouter que quand on dit OK Google, mais il est quand même obligé d'écouter tout le temps pour savoir si on va dire OK Google. Captation visuelle. Tout ce qui est avec webcam, caméra, appareil photo, smartphone. Sur un smartphone, on a toujours une petite caméra, et si jamais on a son smartphone qui dépasse toujours, par exemple, de la poche, faut qu'on fasse confiance à notre smartphone pour être éteint et ne pas filmer tout le monde en même temps. Donc tout ça, en fait, fait que Internet est vraiment partout et on l'invite partout, on l'installe partout. Et donc c'est pour ça que c'est très important de protéger nos droits sur Internet et d'être très vigilant par rapport aux données qu'on laisse, par rapport aux entreprises à qui on confie nos données. Un autre problème de cet envahissement, c'est la raréfaction des espaces déconnectés. C'est plus Internet s'invite partout chez nous, plus ça devient compliqué d'avoir des zones où on va pouvoir se sentir en sécurité pour s'exprimer. C'était un des problèmes qu'on avait mentionné tout à l'heure. Si on se sait écouter et filmer en permanence, on se restreint. On se restreint sur ce qu'on se dit les uns les autres. Et ça, c'est une influence. Heureusement, il y a des solutions. Alors, on en a déjà mentionné un petit peu tout à l'heure. Ça fait un petit peu un résumé un petit peu de l'Internet tel qu'on aimerait bien l'avoir. On avait parlé de la gestion de l'infrastructure. Internet, c'est avant tout, c'est des machines, c'est des tuyaux. À la base, c'est ça. Et donc, cette infrastructure, si on la gère comme un bien commun, si c'est nous, c'est la collectivité, c'est une communauté qui gère cette infrastructure, on en récupère le contrôle et on peut déjà décider de ce qu'on y fait. Au-dessus, sur Internet, il y a les services. Les services vont utiliser Internet. Et là encore, si on laisse quelques services avoir le monopole de nos données, on n'a pas le choix, on est obligé de les leur laisser, de les laisser faire ce qu'ils veulent avec. Donc la solution, Cécile vient d'en parler, c'est la décentralisation. C'est essayer de, là encore, se réapproprier ces services, les faire soi-même ou de laisser d'autres les faire, mais d'avoir plus d'acteurs. Un autre point, ça va être au niveau de la législation. C'est-à-dire que pour l'instant, la législation, elle est beaucoup faite avec les entreprises, et les entreprises veulent gagner de l'argent, et avec les données, ce qui n'est pas forcément en soi un mal, c'est comme ça, mais lorsque leur modèle économique, c'est de faire de l'argent à partir de nos données personnelles, la législation va aller à l'encontre de nos intérêts et de nos droits. Et donc pour ça, il faut être très vigilant. Il faut se battre pour nos droits, pour que la législation protège les citoyens plutôt que de favoriser les entreprises. Donc, tout ça, c'est toujours protéger la vie privée. Au-delà de protéger la vie privée, il y a aussi favoriser l'émancipation des individus. C'est le corollaire, c'est-à-dire que si notre vie privée, on la sait violer, on se restreint et on n'est pas capable de se développer. Et encore, c'est une dernière répétition. On peut développer les initiatives locales. Et donc, ceci conclut notre première partie.
Je sais pas du tout. Ok.
Et donc, dans la deuxième partie là qui va suivre, on va vous parler. Oui, on va la faire plus rapide. On va parler d'une initiative locale qu'on connaît, Fait Maison. Donc voilà, on vous présentera un petit peu, nous les. Ça va être un retour un petit peu d'expérience sur comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de se rapprocher de cet internet idéal qu'on aimerait bien avoir.
Merci. Peut-être une petite pause, non ?
S'il est déjà moins 10, pour accélérer un peu peut-être.
Ouais, ou pas. On peut la faire en.
Oui. Bah, il faudrait parce qu'après il y a un petit pot, hein, vous n'enfuyez pas. Je peux pas rester là. C'est 20 minutes, il demande 20 minutes. Bon, bah, pour ceux qui savent, il propose de le faire en 20 minutes. Là,
Ouais, ça va être beaucoup plus rapide. Bon, du coup, on enchaîne.
Oui,
oui. Allez, on enchaîne. Bon, on va parler local, ça va être plus rapide parce que si on se connaît nous-mêmes, c'est bien. Donc on a parlé de bien commun. On se met devant notre ordinateur, on essaie de créer du bien commun. Qu'est-ce qu'on pour créer un bien commun, quelles caractéristiques on peut penser? Dans notre cas, quand même, on est un peu dans un domaine technique, puisqu'on parle d'internet et numérique. On veut que la technologie soit au service des droits humains, c'est la première chose, et qu'elle soit gérée collectivement, plutôt que privatisée, etc., comme on a dit tout à l'heure. Pour un bien commun, on a un collectif, on veut créer un sentiment d'appartenance, avec des gens qui sont plutôt co-créateurs de quelque chose ensemble, plutôt que consommateurs de quelque chose qu'ils comprennent pas forcément. Pour appartenir au collectif, qui crée un commun, il faut pouvoir être informé des processus, comprendre comment ça fonctionne, et quand on est bien informé et qu'on comprend bien, on peut participer tous à parts égales aux décisions. L'idée aussi, c'est que lorsqu'on crée un collectif qui crée un objet en commun, c'était un peu l'idée de la pêche, en fait, en quelque sorte, c'est quand on maîtrise un peu les quotas de pêche, ça bénéficie à chacun, en fait. On maîtrise le quota de pêche ensemble, et ça bénéficie à chaque individu. Et ben là, c'est un peu une idée comparable, sauf que dans notre domaine, solidarité du collectif à l'individu, par exemple, ça veut dire, si t'as moins d'argent, eh ben t'auras quand même Internet, et ce sera pas moins bien que celui qui a plus d'argent. Et puis enfin, il y a l'idée d'émancipation qu'on vient de mentionner, de pouvoir aussi apprendre comment ça fonctionne, mieux comprendre, pouvoir expérimenter, etc., etc. Et puis enfin, servir l'intérêt général du mieux qu'on peut. Pour le choix d'une structure, très rapidement, donc ça c'est l'exemple de Fait Maison, on est une loi 1901, mais ça c'est des questions, par exemple, si vous disiez on fonde un collectif qui crée du bien commun, ben, je pense que l'Université Populaire Numérique de Damblan, c'est un peu l'idée, quelle structure on se forme, donc Fait Maison c'est une asso loi 1901, on est 100% bénévole, c'est une question qui peut potentiellement être intéressante, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Nous, on a choisi ça parce qu'on veut éviter en fait le déséquilibre qui est lié souvent dans une association au fait qu'on a plusieurs salariés qui en fait maîtrisent tout et puis les bénévoles sont un peu sur le côté. Bon, par contre, le problème d'être complètement bénévole, c'est que finalement, c'est les bénévoles qui ont plus de temps et ou plus d'argent qui peuvent participer plus facilement. Ça, c'est une question intéressante. Voilà, quelle structure, comment structurer, est-ce qu'on embauche des gens ou pas, etc. Comment on fait pour s'assurer que la technologie soit au service de nos droits, quand on est ensemble et qu'on crée quelque chose de commun? Par exemple, à Fait Maison, on a une équipe technique qui, en théorie, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut la rejoindre et essayer de comprendre. Ça, c'est la théorie. C'est ce qu'on aimerait. Enfin, on dit tout le monde peut rejoindre. Mais en vrai, c'est quand même pas facile parce que on n'a pas tous le même bagage technique à la base. Donc, faut faire des efforts. C'est pas si complexe. La marche est pas la même pour tout le monde. Donc, en fait, il y a des efforts pour combler les inégalités. La conséquence de ça, c'est que finalement, on a une pression sur l'équipe technique, puisqu'elle reste relativement restreinte. Donc une précaution à prendre, on essaye au maximum, par exemple, lorsque vous faites de la bidouille, de la technique, ensemble, bien communiquer, par exemple, si je configure quelque chose sur un serveur, et que je le dis à personne, et qu'il y a quelqu'un qui tombe dessus 3 jours après, il dit c'est n'importe quoi ce truc, je l'enlève, ça devient très vite le bazar. Donc communiquer, documenter. On a une tentative à Nantes, on va en parler un petit peu après, mais on a des quartiers spécifiques de Nantes où on fait des dessertes, donc la desserte d'Internet, dessert les gens en Internet, en réseau. On essaye de faire en sorte que les gens du quartier n'administrent que l'infrastructure du quartier, pour qu'ils s'y intéressent de près, puis pour qu'on évite que tout le monde ait accès à tout. En termes de sécurité, c'est mieux. C'est très compliqué parce qu'on a déjà le problème ici en haut. Donc en plus, quand on réduit à l'échelle du quartier, il y a encore moins de gens qui ont la capacité d'administrer. Donc c'est encore plus crucial de transmettre la connaissance. Et enfin, pour être au service des droits, et on a dit tout à l'heure la vie privée, donc on n'observe pas le trafic des abonnés. L'association a été fondée par des gens, et encore maintenant, des gens convaincus de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un problème récemment, c'est que c'est tellement évident pour nous de faire ça, qu'on n'a pas prévu formellement le cas où il y aurait quelqu'un dans l'asso qui deviendrait malveillant et qui commencerait à faire ça. Parce que c'est tellement évident. Bon, c'est une réflexion intéressante aussi, qu'on partage. Ensuite, on veut s'amuser, parce que finalement, quand t'es un collectif comme ça, et qu'on est tous bénévoles, on gagne pas d'argent, alors qu'est-ce qui nous fait revenir? C'est un peu de s'amuser, d'expérimenter, d'apprendre, d'acquérir des choses. Et donc, se réaliser, c'est-à-dire d'amener son travail à quelque chose qui marche, dont on peut être fier. J'ai configuré ce truc, et du coup, l'Internet va plus vite, ou ça, c'est mieux sécurisé, ou etc. C'est sentiment de réalisation, c'est génial. Surtout quand, en plus, on sert une collectivité, on peut vraiment être fier. Donc on veut encourager l'initiative personnelle. Le problème, c'est que plus on a des services qui sont en place, donc les desserts Internet, l'hébergement d'ordinateurs, de sites web, etc., plus expérimenter potentiellement, ça devient risqué. Parce que si on commence à se dire « Ah tiens, le réseau là qui dessert 15 personnes dans le quartier, je vais expérimenter, ça va être marrant. » Et bim, voilà, on casse tout. Donc c'est un peu compliqué aussi, on veut conserver cette possibilité, sans pour autant casser les choses sur lesquelles compte. Donc on a essayé de dire, allez, on fournit du matériel de test, testez, etc., de votre côté, amusez-vous. Par contre, au moment où vous voulez mettre vos tests en production, donc sur l'infrastructure qui rend service vraiment aux gens, là, on regarde tous ensemble. Il y a l'aspect financier, qui est très intéressant et très important. La majorité des services qu'on fournit sont à prix libre. Et comme je disais, la qualité du service ne dépend pas du prix que les gens payent. Je crois que je l'ai répété assez de fois. Donc ça permet que, peu importe vos moyens, vous ayez accès à Internet par exemple, ça responsabilise l'individu vis-à-vis du collectif. Il sait très bien que, en gros, plus il donne d'argent pour le service dont il bénéficie, plus ça aide le collectif. Mais c'est aussi de la solidarité, parce que les gens qui ont un petit peu plus d'argent donnent un peu plus, et puis les gens qui n'ont pas d'argent payent moins, pas du tout. On a quelques abonnés qui ne payent pas Internet chez nous. Donc c'est très intéressant, mais en fait c'est une question qui ouvre plein de champs. Quand on veut faire du prix libre, ce serait impossible sans avoir une transparence vraiment de ce que ça nous coûte. Par exemple, on essaie de calculer toujours, voilà, quand on vous amène Internet, voilà ce que ça coûte à l'association. Donc vous pouvez faire un choix informé sur le montant que vous allez payer. Voilà, si vous payez un peu plus que ça, l'association sera un petit peu en excédent, et si vous êtes moins, et ben, on perdra un peu d'argent. C'est très important que les gens gardent ce sentiment qu'ils appartiennent à quelque chose. Le fait que quand ils donnent un peu d'argent, ça va en fait d'une façon ou d'une autre leur revenir. Si on perd ça, en fait, on commence à rentrer dans un modèle de consommateur, et le modèle de consommateur, en général, c'est plutôt « je veux donner le moins possible pour obtenir le mieux possible ». Et nous, c'est pas ça, on n'est pas dans cette relation-là. On a une information régulière par les trésoriers, donc ils essayent, c'est un peu de travail, mais régulièrement, nous informer sur l'état des comptes, ce qu'on a gagné, ce qu'on a dépensé, etc. Et puis on a un bilan annuel détaillé. Donc tout ça, pareil, c'est des pistes qu'on a explorées, qu'on a mis en place pour être transparent et favoriser l'appartenance. L'indépendance financière, importante aussi. L'ensemble de nos revenus, c'est les dons, les adhésions et ce qu'on touche avec le prix libre. Il y a une exception, on a touché une subvention de Nantes Métropole de 5 000 euros une seule fois. ce qui nous a permis de lancer l'achat du matériel. Et par contre, on est, comme c'est écrit là, on n'est pas sous perfusion de l'argent public. Il y a beaucoup d'associations qui comptent sur l'argent public pour continuer à exister. C'est pas notre cas. On a reçu une fois une somme, et maintenant, on est absolument indépendant des sources d'argent public. Cette équation-là, elle est très intéressante parce que ça veut dire aussi que, au niveau responsabilisation des individus, c'est immédiat. C'est-à-dire que les gens savent qu'il y a un lien direct entre l'argent qu'ils donnent et la capacité du collectif à agir. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre qui rentre en jeu, en fait. Et également, on n'est pas lié à des intérêts privés, type sponsors et compagnie. Ça a un côté un peu courageux de faire ça parce qu'on compte un peu que sur notre propre argent, en quelque sorte, donc ça attire souvent la confiance et la sympathie, finalement, des gens, donc c'est le côté positif. Et par contre, évidemment, on n'a pas énormément d'argent, des fois, donc c'est plus lent pour mettre en place les choses. On veut défendre l'intérêt collectif au sens large, plutôt que juste l'association en tant que nous-mêmes. Notre but, c'est d'avoir conscience de l'intérêt collectif, à l'opposé de l'entreprise privée qui, en général, défend son intérêt. Donc on essaye au maximum d'avoir conscience de ce qui se passe autour de nous. Et lorsqu'on présente des choses, lorsqu'on dialogue avec des élus, avec le public, lorsqu'on fait de la sensibilisation, comme aujourd'hui, en tête, on a nos opinions, évidemment, mais avec un but de défense d'intérêt collectif. Ce que nous, on pense être bon pour l'ensemble des personnes. Quelques exemples, on a publié sur notre site, par exemple, une petite étude sur le débit qu'il y a dans les écoles à Nantes, qui est pas forcément tout le temps terrible. On a publié un petit article sur comment contourner la censure, dont on a parlé plus haut, avant. C'est pas si simple de représenter l'intérêt collectif, en fait, lorsqu'on a une association qui est composée surtout d'hommes, qui sont surtout blancs, et qui sont surtout dans l'informatique. Tout simplement parce que ça, c'est pas qu'on est, on est mauvais ou moins bon, on est des moins bons humains, c'est pas ça, c'est juste que on n'a pas forcément en entrée des gens qui ont un présent, une réalité différente que nous, on n'a pas conscience, en fait. On sait pas que ça existe. Donc c'est des efforts qu'on essaye de faire. C'est pas simple, mais il faut s'ouvrir à l'ensemble des problématiques humaines, au sens où il y a certains groupes de personnes qui rencontrent des problématiques dans leur vie de tous les jours dont nous, on n'a pas forcément conscience, parce que ça, c'est notre composition. Voilà, pour la participation, très rapidement, donc chez nous, c'est chacun a voix au chapitre de façon égale, c'est la théorie. Après, bon, y a eu des barrières sur la technique, par contre, par exemple, que j'ai expliqué. L'organisation humaine, il y a beaucoup de tâtonnements en permanence, et c'est très important, si vous fondez un collectif, de garder, pas rentrer dans un système trop rigide, c'est-à-dire on fait des ateliers, des réunions, des apéros, on essaie d'avoir des moments, des espaces qui peuvent convenir à tout le monde, où chacun trouve un peu sa place, en fonction des envies. Est-ce que ce soir, on va décider d'une question vraiment compliquée, ou est-ce que plutôt, là, on va se poser sur les ordi, puis avancer sur un truc, donc faire un peu de bricole, ou est-ce qu'au contraire, on va juste s'asseoir tranquillement autour d'une table, et puis papoter avec les nouveaux, pour qu'ils se sentent à l'aise, et surtout pas qu'ils se sentent intimidés, parce que, waouh, ouais, c'est trop fou ce qu'ils font, ils font de la technique, moi j'y comprends rien, mais plus qu'ils nous perçoivent comme des humains, en fait, qui ont envie de faire un truc ensemble. Ça, c'est une limitation. On a un lieu où se regrouper, donc il est en centre de ville de Nantes, donc c'est un peu compliqué pour ceux qui habitent loin. Voilà, et on a quelques outils que je vais pas détailler, mais vous savez bien que les outils en ligne peuvent aider à la collaboration de temps en temps.
Donc, comme disait Kéops, on travaille un peu tout le temps là sur nous pour changer notre organisation et évoluer pour essayer de s'améliorer en permanence et de faire en sorte que les gens, comme on est tous bénévoles, on vient de vous le dire, faut qu'on ait envie de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, nous, en termes d'organisation, bah, par exemple, on se retrouve toutes les semaines dans un local associatif autogéré, mais c'est dans le centre-ville. Donc, pour essayer de diversifier un petit peu, et puis aussi pour avoir des temps où on n'est pas que à travailler derrière nos ordinateurs, et ben on a une fois par mois, on a un apéro dans un bar, dans un quartier de Nantes. Donc là, l'objectif est double. C'est d'une part avoir des discussions entre nous, les uns les autres, de façon plus décontractée que derrière une table en réunion. Et puis aussi, c'est pour aller à la rencontre des gens. C'est-à-dire que si les gens ils ont un peu peur de venir nous voir dans notre local, et ben nous on essaye d'aller les voir au bar. Développer la convivialité, et tout ça c'est pour essayer de développer cet esprit de communauté. Donc pour développer la communauté, on a différents modes de fonctionnement. Donc, on a notre permanence hebdomadaire. Et puis, de temps en temps, on va aussi s'organiser des week-ends de travail. Parce qu'on aime vraiment bien ça. Et puis, pas que entre nous, on va aussi travailler avec d'autres associations. Cet été, on s'est retrouvés pendant une semaine avec des gens qui venaient...
Alsace.
Voilà. Et des Alsaciens sont venus avec nous, ils font de l'internet en Alsace, et ils sont venus à Nantes, et puis on a pu travailler pendant une semaine ensemble. Vendredi compta. Parce que la compta, faut la faire. C'est parfois casse-pied, alors c'est plus rigolo quand on est plusieurs à le faire. Pareil, en termes d'outils de travail, on a des listes de diffusion, des outils collaboratifs, et le point qui est vraiment clé là-dessus, c'est que c'est quelque chose qu'on essaie de faire varier, enfin pas de faire varier, mais d'écouter, de s'écouter les uns les autres et d'avoir les outils adaptés. Je répète, on s'arrête jamais. Il faut toujours être à l'écoute de son collectif et de sa communauté pour essayer de voir quels sont les problèmes, de pas s'enliser. Donc les problèmes que vous avez mentionnés, donc manque de diversité, de représentativité, et aussi lorsque les gens viennent bénévolement pour entre guillemets s'amuser, et ben c'est parfois difficile d'avoir un mouvement global cohérent, faire aller l'association dans une seule direction, parce qu'en fait, y a Kev qui veut aller là-bas, moi j'aimerais bien aller là-bas, et puis Cécile, elle veut aller là-bas. C'est parfois difficile. Et en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on vous a parlé du collectif, comme quoi on avait l'air très gentil, mais comment est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Donc, comment est-ce qu'on fait pour décentraliser le réseau? On a parlé de la législation, comment est-ce qu'on peut faire pour la modifier, ou comment on s'organise avec la loi, comment on sensibilise, et puis plus globalement, on l'a fait comme tu peux comprendre, on n'est pas non plus tout seul. Donc, comment est-ce qu'on décentralise le réseau? Alors, on construit local, on est présent dans un data center, donc c'est une salle qui est remplie d'ordinateurs, et parmi tous ces ordinateurs, il y a ceux de Fait-Maison. Donc ça, c'est notre cœur de réseau, donc les machines, quand vous êtes abonné Fait-Maison, votre connexion, elle arrive dans ce data center, dans nos machines à nous. Et donc ça, c'est placé à Nantes. On fait aussi de l'hébergement physique, c'est-à-dire que si vous souhaitez, si vous souhaitez avoir un serveur, vous pouvez aussi le mettre dans notre armoire, dans ce data center. Moi, par exemple, j'ai une machine, hop, dans le data center de Fait-Maison. On a aussi des services. Cécile avait parlé un petit peu du VPN. On fait aussi ce qui s'appelle des machines virtuelles. Je rentre pas dans les détails, mais on propose aussi des services. Et ces services, vous avez la garantie, parce que c'est vous qui le faites si vous êtes chez Fait-Maison, que c'est fait à Nantes. Et vous savez comment c'est fait. On a de la desserte Wi-Fi dans différents quartiers de Nantes. Donc là encore, on fournit de l'accès à Internet par réseau Wi-Fi. Mais c'est pas non plus que de la technique. C'est aussi participer à différents événements, que ça soit des cafés privés, c'est si vous en parlez un petit peu tout à l'heure, des conférences, des Wi-Fi pour certains événements, pour une opération libre à Chéméré, pour le festival Air de Rien, sur Notre-Dame-des-Landes. Et aussi coopérer avec des initiatives locales, donc, par exemple, Collectif des Chatons, dont on vous a parlé tout à l'heure, il y en a un qui est en train de se monter à Nantes. Il y a une grande chance pour qu'ils mettent une machine chez nous. Donc ça, c'était pour nos actions, on va dire un peu techniques. Et aussi, il y a la législation. Dans quel cadre légal est-ce qu'on se place en tant que fournisseur d'accès à Internet? Donc, lorsqu'on veut faire bouger la loi, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, il y a comprendre et respecter la loi. Donc faire des déclarations CNIL, déclaration ARCEP. L'ARCEP, c'est le régulateur des télécoms français. Donc, on est opérateur déclaré à l'ARCEP. Par contre, on va comprendre la loi et la respecter dans les limites minimum de ce que nous, quand on va l'estimer que c'est acceptable. Donc par exemple, un nouvel abonné, on va pas avoir de vérification de son identité. Par exemple, la loi va nous demander nom, prénom. Mais on n'est pas tenu de lui demander sa carte d'identité pour savoir si c'est effectivement, il s'appelle Luc. En termes de conservation de données, La vie privée, pour nous, c'est très important. Donc, on va chercher à conserver le moins de données tant que dans le cadre qui est défini par la loi. Si la loi nous dit un an, on va chercher à conserver vraiment nos données un an et les effacer le lendemain. Chez Orange, ils vont plutôt avoir tendance à prendre sur 10 ans parce qu'on sait jamais. Et puis de toute façon, on pourra toujours les revendre. Et ensuite, quand la loi a vraiment, des fois ça va vraiment pas bien, eh ben, faut essayer de la changer. Donc pour ça, on fait aussi du militantisme et du lobbying au niveau national et européen. Donc, au niveau national, ça va être par exemple au niveau de la loi renseignement, faire de l'information, appeler des députés pour leur expliquer que ce qu'ils font, c'est pas bien. Sur le SDTAN, ça va être la même chose, ça va être le lire, le comprendre, le relire. Et puis, bah, aller voir nos élus, essayer de comprendre comment ça se passe, et essayer de voir s'il n'y a pas des personnes sur qui on peut taper pour essayer de faire bouger les choses dans un sens qui nous arrangerait. Au niveau de l'Europe, il y a le code de communication électronique européen, qui pareil définit des gros bouts de la législation au niveau européen, et du coup qui vont nous impacter. Et ben, il y a des gens qui le lisent, qui essaient de comprendre.
C'est un texte qui définit toute la future législation qui sera appliquée dans toute l'Europe sur comment sont régulés les opérateurs Internet. Tout à l'heure, je parlais d'avoir des prix de gros accessibles pour que les initiatives locales puissent faire quelque chose dans les villes, les villages. Ça fait partie de ce texte. C'est pour ça que nous, on est actifs dessus.
Ça, c'est le schéma directeur territorial d'aménagement du numérique. C'est au niveau de la région, comment est-ce que le plan départemental. Mais voilà. Ça nous pose parfois des soucis parce que c'est compliqué. C'est chronophage. Et aussi, dans notre association, il y a beaucoup d'informaticiens et pour la plupart, on trouve que il y a plus de gens qui préfèrent en fait faire du réseau que appeler des députés. Du coup, c'est parfois moins efficace.
On a aussi du coup des actions de sensibilisation aux enjeux du numérique et on essaye de partager un certain nombre de connaissances sur les technologies numériques.
Ah, pardon.
Donc comme ça, on organise des ateliers, des conférences. Pour ce qui est des ateliers, c'est plus pour partager, ça se fait en petit groupe généralement. Parce qu'à beaucoup, ça devient très vite compliqué d'aborder des sujets complexes. Ça permet de favoriser l'échange également, et ça permet de faire monter les gens en compétences plus facilement. Donc des exemples d'ateliers qu'on fait régulièrement, c'est... Il y en avait eu un sur la démystification des réseaux et des moyens, parce que typiquement, un nouvel adhérent chez nous ne va pas forcément connaître en fait des notions de réseau. Enfin, moi, je sais, quand je suis arrivée à Fait-Maison, je ne connaissais strictement rien au réseau. Il m'a fait plusieurs ateliers, plusieurs longues discussions avec les bénévoles pour comprendre et intégrer comment ça marche et comment aussi je peux faire des petits trucs des fois. Un autre atelier qu'on a fait, c'est le montage de briques Internet. Je vous en parlais tout à l'heure, ce petit boîtier-là. On a fait une commande à Fait-Maison, on a reçu plein et en fait... Personne ne savait comment ça se montait, comment on allait se dépatouiller avec ça, et du coup on a fait ça tous ensemble. On a décidé de prendre un temps, un soir, pour le faire. Pour le routage également, en fait, très régulièrement, on s'accorde des temps de formation, enfin, on annonce ça sur la liste, et voilà, on se dit tiens, et ce soir, moi je t'apprendrai bien tel truc, est-ce qu'il y a d'autres gens de motivés, ou alors moi ce soir j'apprendrai bien ça, est-ce que t'as envie de m'apprendre? Et c'est très important en fait pour essayer d'égaliser aussi un petit peu les compétences de chacun, ou en tout cas, même si tout le monde ne peut pas avoir les mêmes compétences techniques, mais au moins la même compréhension, pour qu'on puisse décider tous ensemble ensuite. Dans un autre domaine, les ateliers qu'on organise, on a lancé ça l'année dernière, c'est des cafés vie privée. Donc les cafés vie privée, c'est... À la base, c'est bien au-delà de Fait-Maison, c'est un mouvement citoyen décentralisé qui avait pour objectif de vulgariser le chiffrement, notamment par mail. C'est des collectifs, les cafés du privé, il y en a un petit peu partout. Il y en a à Paris, il y en a à Rennes, il y en a à Toulouse, il y en a en Australie, en Allemagne, en Angleterre, il y en a vraiment partout. Et à Fait Maison, on a décidé d'organiser des cafés vie privée. On va un petit peu plus loin que le chiffrement. Comme on l'a présenté dans toute la première partie de la conférence, aujourd'hui le numérique il est vraiment présent partout, il y a énormément d'enjeux concernant la protection des données personnelles. Du coup, on organise des ateliers qui permettent aux gens de prendre conscience des données qu'ils laissent et de comment on peut se protéger de tout ça. Donc pareil, c'est des ateliers plus mixtes café maison, pour le coup, le public qu'on reçoit. Et puis il y a un petit peu de tout comme type d'atelier. On va apprendre aux gens à se protéger de la publicité quand ils naviguent sur Internet. On va leur apprendre à installer des plugins pour se protéger des trackers. On va avoir des échanges sur la sécurité, on va leur faire découvrir des systèmes d'exploitation qui permettent de protéger l'anonymat, on va leur présenter le VPN, leur expliquer ce que c'est. Il y a tout un tas d'outils pour protéger sa vie privée et surtout en fonction du niveau qu'on souhaite dans la protection de sa vie privée. Parce que je pense à un cas d'un militant sur un sujet, enfin je sais pas, un militant de l'environnement, enfin, au moment de la COP21 par exemple à Paris, ça peut être intéressant pour lui d'apprendre des techniques pour protéger sa vie privée à un niveau un petit peu plus élevé qu'une personne qui n'est pas militant sur ce sujet. Voilà. Un exemple, il y a des niveaux de protection. Et on fait aussi des conférences, parce que les ateliers c'est plutôt en petits groupes et puis c'est souvent destiné à nos membres, même si c'est ouvert à tous. Et les conférences là on essaye d'élargir. Et là c'est plus pour informer en fait le public. Alors un bon exemple de conférence, enfin de cycle de conf qu'on avait mené, qui avait été long à mettre en place et ça avait pris beaucoup de temps, mais c'était un très beau cycle d'événements. On avait accueilli pas mal d'associations différentes. On avait accueilli une ONG qui défend la neutralité du net au Parlement européen. On avait accueilli une représentante de l'April, une association de promotion et de défense des logiciels libres. On avait accueilli des réseaux indépendants, un petit peu comme le nôtre, Freifunk qui vient d'Allemagne, le Net du Carmer qui est un petit réseau indépendant dans les Côtes d'Armor, Griffon qui a failli Rennais. On avait accueilli des journalistes pour nous parler de transparence et d'outils de fuitage, la Quadrature pour analyser avec nous les propos des candidats, c'était pendant l'élection européenne en 2014. Donc c'est typiquement ce genre de conférence qu'on va mettre en place, ça permet d'aller toucher un tout autre public, de l'amener à se poser des questions, à l'amener à réfléchir un petit peu à tous les enjeux qu'il y a autour du numérique. Et puis, concernant Fait Maison, je pense un petit peu pour toutes les assos pareil, la difficulté sur l'organisation de ce type d'événement, c'est que c'est un petit peu dur de mobiliser les membres. Pour la partie organisationnelle des événements, et puis on est quand même sur des sujets qui sont un petit peu complexes, qui font pas forcément envie, et du coup, là où on sèche un petit peu, c'est comment attirer le public en fait à venir nous rencontrer pour apprendre un petit peu plus sur tous ces sujets.
C'est moi ça ?
Ok. Et du coup, tout ça, on le fait, ça nous prend plein de temps, et heureusement, on n'est pas tout seul. Alors ça, par exemple, ça, c'est une carte de France avec plein d'autres initiatives comme Fait Maison. Il n'y a pas que la France, ou pas. Il y a la Belgique, et je crois qu'il y avait un territoire d'outre-mer, ouais, il y a
Gwen. Ça, c'est là.
La France métropolitaine. Bon, bref. Il y a plein d'autres gens qui sont aussi baboule que nous, et qui font la même chose. Et on n'a pas encore trop en montagne.
Très bien.
Ok. Donc tout ça, on n'est pas tout seul et du coup, on agit aussi pas tout seul. Donc FFDN, c'est le nom de la fédération dans laquelle plein de FEI associatifs en France sont regroupés. Et LQDN, c'est la Quadrature du Net. Et donc, ces deux collectifs se sont retrouvés des incointances pour former un collectif des exégètes amateurs. C'est les gens qui vont aller lire les textes de loi et déposer des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité, par exemple. Lorsque notre cher ministre de l'Intérieur fait une loi qui déborde un peu, et ben, allez voir le Conseil constitutionnel pour essayer de faire invalider la loi. Conférence internationale, il y a eu à Bruxelles, San Francisco, Montréal. Et comme on l'a dit à l'instant, ça bouge aussi beaucoup à l'étranger. Donc Access à Bruxelles, EDRI, Freifunk, ça s'en est. Un des problèmes dans ce type d'action collective, c'est que lorsqu'on sort de la France, souvent, on va se mettre à parler anglais. Et ça va être une barrière, parce que tout le monde ne parle pas forcément anglais. Quel futur et fait maison. Donc, c'est la conclusion. Si vous reconnaissez, c'est le même petit chat. Et c'est quasiment le même point. Gérer l'infrastructure comme un bien commun. Dans le cadre de Fait Maison, on a une gestion locale par l'association, on est à Nantes. Décentraliser les services. Alors, on a quelques services, mais c'est surtout, ça va être des collectifs comme les chatons qui vont décentraliser les services. Légiférer en faveur des citoyens des alternatives. Prendre du temps pour lire les textes de loi et appeler des députés, des eurodéputés, et aller voir des élus pour leur expliquer que ça serait mieux si c'était fait comme ça. Protéger la vie privée. Donc, par la formation, ce dont Cécile vient de parler sur le café vie privée, expliquer, transmettre les connaissances sur comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger, déjà pourquoi est-ce qu'il faudra se protéger. Et puis aussi par la pratique, on l'a mentionné, si la loi nous dit que il faut garder les données de connexion pendant un an. Ben, ça sera un an, pas plus. Et peut-être que ça va changer, peut-être qu'on n'a même plus besoin de les garder. Favoriser l'émancipation des individus. On se réapproprie le réseau. Quand on sait comment ça marche, le réseau, c'est nous qui le fabriquons. Donc on apprend comment ça fonctionne. Ça permet de comprendre que, par exemple, l'informatique du nuage, le cloud, c'est juste une armoire remplie d'ordinateurs. Et puis on a vraiment essayé de développer à fond les initiatives locales, en expliquant que c'est tout à fait possible de faire son internet, et qu'il y a plein d'intérêts. Donc, et c'est fini.
Oups, j'ai fait quoi là?
Tu as remis ça.
Ah, merci, bravo.
Désolé, c'était mal timé.
2 minutes, d'abord pour vous remercier, encore une fois pour le travail vraiment très complet que vous nous avez présenté. Je voudrais juste, pour ceux qui veulent soutenir cette association qu'on vient d'entendre, il y a une petite boîte là sur la table là. Et on a le droit de mettre des pièces et même des billets. Et puis j'ai 3 bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est qu'on va boire un coup, tous ensemble, et qu'on pourra continuer à discuter. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ceux qui veulent continuer à suivre nos activités de l'université et du numérique de Damgant peuvent le faire. On a dimanche une foire aux questions informatiques qui a lieu dans cette salle à 10h. Et dimanche en 8, on a l'assemblée générale de notre association à laquelle vous êtes bien entendu tous invités à participer. Voilà, je vous remercie encore et on va boire un coup. Voilà.
Bon, pas compliqué.
Concrètement, Rémi,